Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kélia, c'était vraiment super quand même.
Qui ça?
Kélia, bon, je suis
la
reine
de la française.
Ouais, ouais,
j'ai pas la référence.
Non. Dommage.
Salut, c'est Clément.
Salut, c'est Louis Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du Son d'après. Je suis, comme toutes les semaines, accompagné de ma meilleure binôme. Je vous présente Louise Petrouchka.
Bonjour.
Et, bon, on va pas spoiler, enfin, voilà.
Vous ça savez, sert à rien de faire genre, en fait.
Il y a tout dans le titre. On est accompagné d'un invité aujourd'hui. On est très heureux d'accueillir Mehdi Maizi.
Bonjour, coucou, merci pour l'invitation.
Comment tu vas?
Moi, je vais très bien. Je suis là pour parler de musique, donc je vais très bien.
On est vraiment très content de t'accueillir.
Ben,
c'est vraiment un honneur pour nous. Et du coup, avant de commencer, quand même, pour les gens qui te connaîtraient pas,
bien sûr, ils
sont
nombreux.
Tu pourrais te présenter?
Ouais, ben, je suis, je crois, journaliste rap. Aujourd'hui, je travaille pour Apple Music. J'anime une émission qui s'appelle Le Code, un show audio aussi qui s'appelle Le Code là-bas. Et je m'occupe de tout ce qui est en rapport avec le rap, globalement, chez Apple Music en France. J'anime également une émission qui s'appelle Rap Jeu, qui est sur YouTube, sur la chaîne de. Red Bull Bank, ça s'appelle maintenant, parce qu'avant c'était Red Banks, donc vous aurez compris que c'est sponsorisé par Red Bull. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, et dans le passé j'ai animé des émissions pour d'autres médias, etc. Mais globalement je parle de rap, quoi. Voilà, c'est ça ma vie, ce qui est agréable.
On aura l'occasion d'en reparler justement, on a des choses à parler avec toi là-dessus.
Très bien, je vous dirai tout.
Mais avant, pour ceux qui nous découvriraient en fait avec toi, qui écouteraient le podcast à cette occasion-là, Louise, est-ce que tu pourrais présenter rapidement qui
avec
on est,
joie
nous,
et
le
plaisir.
Son d'après.
Écoute, avec joie.
Mais ça, est-ce que c'est pas relou pour les gens qui vous écoutent toutes les semaines si
tu
présentes
écoute,
à chaque
ils
fois.
Passent 30 secondes.
Ok,
sont,
d'accord.
Ils sont pas... Vous n'êtes pas pressés,
les gens,
les,
feignant,
gens qui...
non.
Les auditeurs et auditrices.
Non, et puis
non,
bon,
je crois
c'est
que
un par mois, tu vois, un par mois, on invite.
Ok, ça ok,
va. Ça va.
Ils seront contents d'écouter l'épisode, quoi qu'il
bien
arrive.
Sûr. Ce podcast, c'est quoi? C'est un podcast de découverte musicale qui sort chaque lundi, où on partage nos kiffs musicaux du moment avec Clem, en espérant que ça alimente les playlists de tout un chacun. Et aujourd'hui, on a demandé à Mehdi de ramener deux morceaux d'artistes qu'il kiffe en ce moment et dont il voudrait nous parler, globalement. Et nous, de notre côté, on a chacun ramené un titre qu'on espère faire découvrir à Mehdi, et en même temps, bon...
Non, faut pas...
Voilà. Faut aussi préciser, peut-être, c'est une spéciale rap aujourd'hui.
Ah ok, ouais, non, mais parce qu'il y a plein de choses que je connais pas. Mais...
Voilà, oui, c'est ça, c'est qu'il y a un moment donné, on s'est dit, bon,
très
on
bien.
Va rester dans une...
Mais pas que moi, franchement, j'ai envie de parler musique plus généralement, ça
ouais,
m'intéresse.
Bon, de ce que vous voulez, mais
ton rapport à la musique, évidemment. Mais du coup, je te propose qu'on commence tout de suite.
Let's go, commençons, je suis chaud.
C'est quoi le premier morceau dont t'as envie de nous parler?
Bah le premier, du coup, il va être en rapport avec l'actualité.
Oh, ok.
C'est un morceau de Baby Kim. Le morceau s'appelle 16, c'est ça, hein, je crois que j'ai choisi.
Tout
ouais,
à fait.
Ouais, exactement.
Okay. Donc c'est extrait de son album qui vient de sortir, qui est son premier vrai album et troisième projet en fait, qui s'appelle The Melodic Blue. Qui est Baby Kim? Je pense que c'est la question. Que
ouais, je pense, ouais.
Et, c'est un jeune rappeur, du coup, californien. Il s'avère que c'est le cousin de Kendrick Lamar. C'est un peu un cheat code au début, parce que du coup, très vite, il a eu le rayonnement de Kendrick, mais aussi, c'est quelqu'un qui est encore pas très connu et qui très vite a eu des gros featuring, qui a eu un peu accès à des gros producteurs, etc. Sans être signé, sur TIDI, le label de Kendrick, mais il a déjà eu, il y a un entourage, on va dire, qui est très protecteur et talentueux et prestigieux autour de lui. Il y a une très bonne mixtape qui est sortie en 2019, mais là, l'album The Melodic Blue, moi, ça m'a mis une vraie claque. Genre vraiment, c'est l'album, je pense, de rap américain que j'ai le plus écouté cette année.
Ouais.
Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à la première écoute, c'est très facile de penser à Kendrick Lamar dans la voix, dans les flows, dans certaines mêmes constructions de morceaux, et de se dire « Ah bon, ben, c'est un peu la dose de Kendrick tant que Kendrick n'est pas revenu. » Et en fait, non. C'est un peu un jugement à l'emporte-pièce de dire ça, c'est que je trouve qu'il y a c'est un peu le lien un peu cool entre la génération des Kendrick et la génération des Lil Baby Gunna, qui sont un peu les nouvelles stars maintenant, qui sont la nouvelle trap d'Atlanta, etc. Et je trouve que lui, c'est vraiment le trait d'union entre un truc un peu plus classique californien à la Kendrick, très rappeur, kicker entre guillemets, et ce truc-là très trap, très foufou, même dans les thèmes qu'il aborde, et avec aussi une autre... identité un peu pop, notamment sur le morceau qu'on va écouter, hein, 16, qui est un morceau de rap, parce qu'on dit que c'est du rap parce que maintenant le rap a vachement évolué, mais en vrai ça pourrait être un truc d'un autre genre musical et ça choquerait pas vraiment, quoi. C'est un morceau de pop plutôt qu'on va écouter, qui est très très beau, qui est un morceau un peu sur je sais pas, sur la confiance en soi, le fait qu'il faut apprendre à s'aimer, apprendre à se pardonner, apprendre à faire confiance aux gens. Mais c'est beaucoup moins bateau que dans ma bouche, que dans sa bouche en tout cas, enfin que dans ma bouche, dans la sienne. Et voilà, non, mais surtout, enfin, j'encourage vraiment tout le monde à écouter ça, parce que c'est, il y a un truc genre qui peut sembler très spé autour de Baby Kim, genre un truc un peu de rap alternatif, alors que pas du tout en fait, c'est super accessible et les refrains sont, les mélodies sont archi comment dire, catchy. Lui, il rappe super bien, c'est très très lisible sa manière de rapper, c'est-à-dire qu'on comprend tout ce qu'il dit, ce qui est appréciable, et pas toujours le cas, surtout, ouais. Donc voilà, donc non, c'est, moi c'est un vrai coup de cœur, et je suis content parce qu'en fait je trouve que il a réussi à se détacher un petit peu de l'influence de Kendrick, même si Kendrick est présent sur deux morceaux quand même sur l'album, mais il fait autre chose en fait, et on va le voir sur 16, qui est pas du tout un morceau de Kendrick Lamar, qui est un morceau de Baby Kim en fait, et donc je trouve ça très cool, et c'est aussi évidemment un enfant de Kanye, parce que toutes ces fusions là, rap, pop, enfin évidemment que le point charnière du rap, c'est Kanye, en tout cas du rap de ces 10 dernières années. Donc voilà, donc non, c'est chambé. J'encourage tout le monde à l'écouter. On peut l'écouter si vous voulez.
Ouais, allez, on écoute ça tout de suite.
Très doux.
Pour être tout à fait honnête, je suis content en fait de t'entendre parler de Baby Kim comme ça, parce que moi du coup j'ai écouté l'album direct quand il est sorti et moi j'ai grave été emballé.
Ouais.
Et bon, tu vois, je suis comme d'habitude quand même, je fais partie de ces gens qui regardent un petit peu.
Toi, t'allais sur Pitchfork, voilà.
Non.
T'as dit qu'ils ont mis que 6 sur 10.
Ah, mais moi, je voulais parler de ça. Ça tombe bien, on en parle tout de suite. Je suis désolée, vas-y. Direct, tu vois. Mais ouais, justement, les notes de Pitchfork, est-ce que c'est pas la pire chose au monde?
Ben, il y a un truc un peu ludique là-dedans, en même temps complètement lunaire, parce que genre mettre des 6,3, tu sais pas d'où ça sort. Mais après, en fait, je sais toujours pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de noter la musique.
Est-ce qu'ils ont un barème, genre?
Je sais pas comment ça se passe, mais en fait, il y a quand même un truc, je sais pas, je me dis, c'est quand même un peu courageux de dire cet album-là, il vaut 7. En fait, je sais pas, je me dis, parce que c'est surtout que nous, en France, par exemple, l'exercice de la chronique, il est quasiment mort en fait, il y a vraiment très peu de médias musicaux qui font de la chronique, ou alors c'est pas à grande échelle, et donc je trouve ça quand même encore bien que Pitchfork soit encore reconnu et attendu pour ses chroniques d'albums et du coup aussi pour ses notes, parce que c'est un vrai rendez-vous, combien ils vont mettre à Donda. Mais c'est vrai que d'un point de vue genre, je sais pas, un peu objectif, à quel moment tu peux noter la musique? Et en même temps, je sais pas, moi à l'époque quand j'étais petit, j'achetais Ciné Live sur le cinéma, et il y avait des barèmes de... Des barres ou quoi?
C'est
yeux.
Comme les étoiles. Ouais,
moi, je t'avoue, pareil, hein, les critiques ciné, moi qui fais tout le temps, je jette un coup d'œil, tu vois, par curiosité, juste pour avoir une vague idée de, tu vois, de ce que ça. Voilà.
Après, il faut pas prendre ça comme. Le truc, c'est que Pitchfork, c'est un peu maintenant imposé comme genre le média. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se vendent, eux, prescripteurs et qui fait autorité. Mais je sais pas, moi je regarde encore, je lis encore les chroniques de Pitchfork, même encore en 2021, j'avoue, ça m'intéresse encore.
Moi c'était plus Twitter en fait, tu vois, c'était pour les réactions Twitter, je trouvais que, et notamment parmi un peu les journalistes rap, tu vois, que je peux suivre autour de toi, même des gens qui sont proches, je trouvais que globalement les avis étaient très négatifs, ou très négatifs, ou très
mitigés.
Voilà. Ouais, très mitigés sur, oui, c'est du sous Kendrick et tout, et j'avoue que j'étais un peu perplexe, parce que moi vraiment, l'album, je me le suis pris, il y a vraiment plein de choses qui m'ont...
Mais peut-être que c'est du sous Kendrick un peu, mais est-ce que c'est un problème? Je sais pas, genre, moi quand PNL il sort plus d'album, j'écoute DTF et je suis content, c'est un peu du sous PNL, ou je sais pas, quand, je sais pas moi, j'en sais rien, moi Nolan il fait plus de films, il y a toujours des mecs qui font des films à la Nolan pendant deux ans. Donc je sais pas, ça fait le taf. Donc je suis pas en train de dire que c'est un. J'en sais, peut-être que c'est un. Enfin, je sais pas comment l'album survivra à l'épreuve du temps. Est-ce que ce sera juste un truc que j'ai écouté à l'été 2021 ou est-ce que c'est un truc qui va. Non, c'est sorti en septembre. À la rentrée 2021 ou est-ce que c'est un truc qui va durer? J'en sais rien. Là en tout cas, c'est un truc qui m'accompagne vraiment au quotidien. C'est un album que j'adore et ce morceau-là me touche beaucoup, quoi.
Et c'est intéressant même plus que certaines grosses sorties, que ça soit parce qu'il y a eu là récemment, il y a quand même eu Kanye West, il y a eu Drake.
Ouais, c'est bien plus intéressant que Drake en tout cas, même si moi j'adore Drake, hein, vraiment, c'est un artiste que j'aime, qui est très important pour moi. Là, je l'ai remis en plus ce matin, alors que je l'avais pas écouté depuis 3 semaines. Quand je l'écoutais, j'avais grave cette comparaison, j'étais content de moi, en fait, tout le monde l'a fait depuis, c'est un Marvel en fait, le Drake. C'est-à-dire que c'est un film super efficace que tu regardes, que tu oublies, mais que tu peux revoir 2 semaines après avec des amis qui l'ont pas encore vu parce que ça se passe bien. Ouais. Voilà, le héros il gagne à la fin. Il y a les bonnes scènes d'action au moment où elles doivent avoir lieu. Il y a les scènes sentimentales au moment où elles doivent avoir lieu. Mais c'est tellement pas surprenant. Et c'est un peu dommage que l'artiste leader du rap et même de la pop en fait aujourd'hui, Drake, ne prenne plus aucun risque en fait. On est aujourd'hui sur un truc de. C'est de la musique qui est extrêmement convenue. Qui n'est pas désagréable pour autant, parce que c'est efficace. Mais voilà, effectivement, c'est pas l'artiste le plus challengeant dans le paysage rap actuel. Mais en même temps, bon, il sait ce que les gens aiment, quoi. Tu sais, moi, je repense toujours à une phrase que j'avais lue à l'époque d'Humphrey Bogart qui disait « Ouais, les gens, ils veulent juste que je mette mon imperméable et je leur donne ce qu'ils veulent. » Et en fait, je crois que Drake, il a exactement compris ce que les gens attendaient de lui, et ça cartonne. Donc, est-ce qu'il a tort d'un point de vue très bête et méchant? Non. D'un point de vue artistique, je sais pas ce qui restera pareil de tout ce qui sort depuis 5-6 ans en fait, parce que c'est un peu le même album depuis.
Oui, ça, parce qu'il y a même plus le côté un peu précurseur, c'est pas le bon mot, mais tu sais, qui allait choper à droite.
Oui, voilà, je suis d'accord avec toi.
Maintenant, il attrape plus vraiment les tendances à droite à gauche, un peu en avance. Et,
non, plus du tout même. Et après, en même temps, il est, sans le vieillir, mais parce qu'il a mon âge, mais il est plutôt jeune. C'est-à-dire qu'en fait, le run qu'il a eu, mine de rien, de plus de 10 ans au sommet, c'est unique.
Ouais,
il a le droit maintenant
de se poser,
de faire des petits albums, entre guillemets, un petit album et de se reposer là-dessus. Enfin, c'est pas choquant et on en demande parfois beaucoup aux artistes qui sont, qui tiennent du pavé, qu'on a l'impression qu'à chaque, comme on les aime énormément et qu'ils ont sorti des choses importantes, on a l'impression qu'à chaque album, ils doivent sortir un classique.
Ouais,
parce que c'est vrai, quand Kanye a sorti Isus, qui maintenant est clairement un classique pour tout le monde, mais quand c'est sorti, c'était compliqué.
C'est pas le plus évident pour tout le monde, mais
moi, au début, c'était pas évident pour moi. J'ai mis une semaine à. C'est la première fois que ça me faisait ça. J'ai mis une semaine à capter cet album, mais peu importe, justement, avant que je le capte, j'étais en mode putain, mais c'est Kanye, normalement, Kanye, c'est toujours parfait, surtout après l'album d'avant,
bien sûr,
qui était genre, vraiment la perfection. Et en fait, après, en discutant, tu te rends compte, mais je sais pas, la carrière de Prince, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, il y a des expériences aussi. Ouais. Et en fait, dans toutes les grandes carrières, c'est ça, tu as le droit de. Je sais pas, tenter des choses. Ce que Drake ne s'autorise plus, en fait. Drake ne s'autorise plus à tenter des choses, à se dire, tiens, là, je sais pas, je kiffe l'afro-pop de faire un album comme ça. Non, mais, tu vois, en fait, non, surtout pas, même. Alors que Kanye peut faire ça. Et encore ce truc de folie et tout qui est intéressant.
Joule, j'aimerais entendre Drake qui écoute du Jul et qui refait sa
sauce. C'est ça la suite, tu vois. Drake qui va voler le style des Français. Pourquoi pas, parce qu'il aime bien voler le style des gens. Mais voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que Baby Kim, c'est cool, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est mieux que Drake, en tout cas.
Justement, tu parlais de ta manière d'écouter. Moi, ça m'intéresse.
Ouais.
T'es quel genre un peu d'auditeur? Du coup, t'es quelqu'un qui va avoir des obsessions musicales pendant un temps et qui va écouter en boucle? Ou tu.
Déjà, j'écoute des albums. C'est très bizarre pour un mec qui travaille dans le streaming, mais j'ai du mal avec les playlists. Il y a peu de playlists que j'écoute, en fait. Alors que j'en fais, c'est mon travail d'en faire parfois, mais je m'en fais assez peu. Parce que j'ai la flemme, je crois. Mais surtout aussi parce que j'ai grandi en achetant des CD, donc des albums, et je suis pas en mode en train de dire c'est comme ça qu'il faut faire la musique, pas du tout, bien sûr. C'est juste comme ça que moi je l'écoute, parce que j'ai du mal à me détacher des albums, et parfois il y a des albums qui méritent pas d'être écoutés en entier, mais je le fais. Une aussi parce que c'est parfois mon travail, surtout avec tout le rap français. Donc du coup, déjà mon point d'ancrage, c'est les albums. Donc c'est vers ça que je vais, c'est ça que j'écoute. Et si genre je sais pas moi The Weeknd, il sort un énorme, enfin il sort un album vendredi, c'est pas le cas, il sort un album vendredi porté par un énorme single, je vais avoir du mal à écouter le single sans écouter l'album.
Ouais.
J'ai un peu de mal comme ça, c'est-à-dire que donc j'ai un peu ce truc monomaniaque de j'écoute les albums et donc quand je les aime, en l'occurrence Baby Kim, j'y reviens tout le temps et je lance de A à Z. Et quand je les aime pas, quand j'ai aimé 2-3 morceaux, c'est compliqué pour moi de revenir vers ces morceaux-là parce qu'ils sont prisonniers dans un album qui m'embête un peu. Donc je crois que j'ai un peu le même truc qu'avec les films, quoi. C'est-à-dire que, enfin, un album c'est un film pour moi. Donc s'il est pas pensé comme ça, ça a intérêt à être très très divertissant pour que je puisse écouter de A à Z. Donc ouais, c'est un peu ça. Et quand j'aime un album, bah je l'écoute. Oui, je peux l'écouter pendant en boucle vraiment pendant des semaines. Mais par contre, ouais, j'ai du mal avec les playlists. C'est pourtant magnifique, hein, mais j'ai du mal.
Ce qui a été ton job pendant très longtemps et qui l'est encore un peu, quoi.
Exactement, mais en fait... mais déjà, les playlists que tu fais quand t'es édito, sur les plateformes de streaming, c'est pas les mêmes playlists que quand tu fais...
Tu te fais plaisir à toi.
Ouais, c'est pas la même chose parce qu'en fait, t'as des données, des datas, etc. Donc, par exemple, j'en sais pas, tu fais une playlist qui s'appelle... hip-hop et rap, enfin, j'ai n'importe quoi. Donc tu sais que tu vas devoir jouer certains... C'est pas épique que tu te fais pour toi, parce que moi, quand je cours, j'ai pas envie d'avoir des morceaux pensés pour ça. Enfin, je sais pas, je vais mettre juste mes morceaux préférés, ça va me faire du... Ou un podcast, je sais pas. Mais... Donc tu mets les gros sons du moment, tu vas mettre du Niska, tu vas mettre du Eminem, bref. C'est pas des pistes que toi, t'as envie de faire, mais les données te montrent que non, les gens, ils veulent encore le morceau de PLK et Hamza qui est sorti il y a 2 ans, en fait. C'est encore ça qu'ils veulent pour courir. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un travail de... curateur, en fait, ce travail-là. C'est un travail...
C'est un travail de checker ce que les gens, ils kiffent et, et de suivre ça, quoi.
Exactement. Il faut faire plaisir aux gens. Il faut les satisfaire. C'est et c'est ton travail. Ouais, en fait, ou t'essaies de les capter, mais en tout cas, tu leur donnes ce qu'ils veulent. Sinon, t'es plus, ça marche pas et tu es viré. Mais... non, mais globalement, en fait, c'est vraiment ça. C'est pas du tout... les playlists, finalement, faites par les plateformes où c'est full découverte, finalement, l'algorithme te permet plus de découvrir des choses, à mon avis, que les playlists. Ou, enfin, c'est un équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que la grosse partie du travail des curateurs dans les plateformes, c'est pas de faire découvrir la musique. Enfin, si c'est d'en faire découvrir, mais souvent, tu regardes les très grosses playlists, pardon, c'est rempli de morceaux que vous connaissez. Les gens qui écoutent la musique régulièrement découvrent assez peu de trucs là-dedans, en fait. Mais c'est pas le cas de tout le monde. On n'écoute pas tous la musique régulièrement. C'est ça qu'il faut jamais oublier de perdre de vue, en fait. Voilà.
Et qu'est-ce que je voulais dire ? Pour revenir à Baby Kim,
oui.
Moi, justement, j'écoute souvent les singles. En gros, moi, je fais des lives sur Twitch le vendredi matin. Et du coup, souvent, j'écoute les nouveautés. Et donc, il y a souvent plein de singles. Et donc, moi, j'ai écouté le Family Ties.
Ouais, avec Kendrick.
Et ça m'a saoulé.
Je peux comprendre.
Et j'étais saoulé par ce morceau. Et donc, du coup, après, il a sorti l'album. J'étais en mode, bah, comme j'ai pas aimé le single, je vais pas écouter l'album. Et donc, je pense que là, tu m'as convaincu d'aller écouter l'album.
Ouais, en fait, l'album, je trouve, et je suis d'accord avec toi parce que ce morceau-là avec Kendrick, moi, je le kiffe. Mais c'est vraiment un truc de démonstration. C'est un truc de connard de rappeur. Et moi, j'adore les connards de rappeur. Et je suis un connard du rap, mais je comprends. C'est vraiment un truc. Et en plus, tu sens Kendrick, on l'a pas entendu depuis longtemps. Là, il est déchaîné. Quoi. Il se fait plaisir. Il est avec son cousin et avec son. Donc, ils essayent pas de faire un truc qui est lisible. Il y a vraiment un truc de genre, allez, on rappe et on montre qu'on est les meilleurs rappeurs. Et Kendrick, il revient et il montre qu'il est le meilleur. Et fuck Drake, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc-là en mode, bon, vous êtes marrant avec vos albums, mais c'est moi le boss, quoi. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et Baby Kim qui essaye de keep up avec lui et qui s'en sort plutôt bien. Mais l'album est beaucoup plus fun que ça, je trouve.
Okay,
même les morceaux où il rappe, il y a des trucs qui sont en fait assez marrants, assez. C'est pas que ça. C'est pas uniquement. C'est pas un album de connard du rap, le Baby Kim. Mais ce morceau-là, je comprends. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Parce que ça m'a fait aussi du bien d'entendre Kendrick pour de vrai. Mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est des morceaux en fait qui, je pense, sont faciles à faire pour les rappeurs comme eux. C'est juste de la démonstration pure et simple. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça de temps en temps. Mais je peux comprendre que ça saoule en fait.
On l'évoquait un petit peu, mais ton métier, c'est quand même, je pense, essentiellement d'écouter beaucoup de rap toute la journée. Comment ça va la tête et comment est-ce qu'il y a des moments où t'as besoin vraiment d'écouter soit autre chose, soit tout simplement de couper.
Ben ouais, c'est-à-dire que globalement, en fait, le week-end ou le soir, j'écoute les mêmes trucs depuis des années. En fait, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, les trucs qui genre me font du bien ou me permettent de m'aérer, ça peut être du rap, mais c'est rare que ce soit des trucs récents. C'est encore les mêmes trucs que d'habitude que je chie tout le temps. D'ailleurs, quand Louise m'a proposé des sons, je vais pas encore dire Frank Ocean quand même. C'est bon, y en a marre. C'est bon, y en a marre. Mais en fait, c'est ça que j'écoute, quoi. C'est ou les trucs avec lesquels j'ai grandi, ou des trucs de rap, mais d'avant, que j'écoute même plus comme du rap. C'est juste des morceaux qui sont en moi. C'est-à-dire que si j'écoute une Famous de Mobb Deep, je me dis même pas que c'est du rap, quoi. C'est juste.
Oui, c'est ta musique, quoi.
C'est parti de. Ouais, exactement. C'est rare que j'écoute des trucs récents, en fait, quand je suis tout seul, ou quand je suis chez moi, ou quand je travaille pas. Et d'ailleurs, sais pas si vous avez vu ce truc-là qui, je crois, s'appelle l'amnésie musicale. Je crois, c'est un truc comme ça. Il y avait une étude qui avait été faite, il me semble, par Deezer. Et en fait, qui expliquait qu'à partir de 27 ou 28 ans,
je crois que c'est par là.
Les gens, globalement, arrêtaient de découvrir de la musique. Mmh. Et moi, je pense que si j'en découvre encore, c'est parce que je suis payé pour ça.
Ça m'a stressé de ouf. Moi, quand j'ai vu cette étude, j'étais en mode bientôt, je vais plus découvrir de musique.
En fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, avec les gens qui ont des vies de famille ou pas juste des vies, quoi, ben, t'as plus le temps, comme à 20 ans ou à 15 ans, d'aller check absolument tous les trucs et d'écouter tout ce qui sort. Et donc, il y a un moment où t'arrêtes littéralement de découvrir de la musique, à part 3-4 morceaux pop dans l'année qui forcément arrivent à tes oreilles, quoi, ou que tu regardes quand The Voice en fait une reprise. C'est ça, la vie.
C'est vrai, c'est vrai.
Et du coup, en fait, ça y est, tu vis avec les mêmes albums que t'écoutes depuis longtemps. Donc, en fait, je crois que moi, c'est pas comme ça, parce que, évidemment, que voilà, là, je vous parle de Baby Kim, ça vient de sortir, mais est-ce que je l'aurais écouté si j'étais pas dans ce milieu-là? Je sais pas, en fait. Vraiment, je sais pas. Et puis, il y a un moment, effectivement, quand j'écoute beaucoup, beaucoup de rap français, il y a un moment où j'ai pas forcément envie d'en écouter le dimanche. Et il y a aussi un truc, c'est vrai, ça, de plus en plus, ça, c'est assez récent, mais il y a un truc de génération aussi. Tu sais, pendant longtemps, tu te considères, toute ta vie, t'es jeune, en fait. Jusqu'au moment où tu te rends compte, en fait, tu es... Non, mais c'est vrai, toute ta vie, t'es jeune. Tu vois, genre, t'es jeune, à 20 ans, 25 ans, t'es jeune. Et puis, en fait, il y a un moment où tu fais, ah, j'ai 35 ans, c'est plus jeune. C'est pas vieux. Ouais, mais t'es pas un jeune.
Oui, tu...
Et ça, tu le captes, en fait. Moi,
tu
je les
vois, les jeunes, tu vois où ils sont. Tu les vois dehors.
Et donc, parfois, moi, je reçois des rappeurs de 20 ans. Ça se passe archi bien, on a des vraies conversations, mais on sent qu'on n'a rien à se dire une fois que la caméra s'éteint. Parce qu'en fait, il a 20 ans et que j'en ai 35. Et après, il y a des gens de 20 ans avec qui on peut parler, bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a aussi des moments où tu dis, bah, en fait, on a vraiment rien à voir. Ouais. Pourtant, on aime le rap tous les deux, on écoute peut-être les mêmes trucs, mais on n'a rien à se dire. Et donc, il y a aussi un truc où parfois, dans les textes, dans des trucs où, bah ouais, tu vois qu'il y a une diff, quoi. Donc,
ça parle moins nécessairement.
Il y a plein d'albums maintenant que j'écoute de manière professionnelle, mais que j'ai pas écouté pour mon plaisir personnel. Et il y en a d'autres aussi, genre Laylo, je l'écoute.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a aussi des trucs qui sortent de temps en temps qui s'ajoutent à ta discographie perso, quoi.
Beaucoup en réalité, beaucoup encore. Mais par exemple, là, si on parle de rap français, il y a une nouvelle scène, la Next Gen, comme ils aiment l'appeler, qui est assez chaude avec des mecs comme Khali, comme La Fève. Ouais. Je vois des gens que je parle, ouais, super. des gens avec qui je parle, ils sont à fond sur eux. À fond sur eux. Moi, je trouve ça cool, mais je me les suis pas encore pris. Comme je me suis pris SCH en 2015, ou comme je me suis pris PNL en 2015, ou comme je me suis pris Hamza en 2015. ça a été dur aussi de ne pas mettre de Hamza aujourd'hui. Ça, est-ce que c'est parce que leurs albums ne sont pas encore au niveau de ce que SCH sortait en 2015, ou est-ce que c'est juste parce que moi, il y a un décalage et peut-être que, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je vois en tout cas ce truc-là qui évolue, ce qui n'est pas un problème, c'est juste une réalité. Donc effectivement, il y a des trucs que je vais saigner et des trucs qui vont être écoutés vraiment parce que je dois le faire, parce que j'aime le faire en réalité. Moi, ça me... Timal, je suis pas un fan de Timal, il sort son album vendredi, je vais l'écouter. Genre, ça me fait kiffer d'écouter le nouveau Timal, en vrai, je kiffe. Mais est-ce que je vais vivre avec cet album-là pendant plus d'une semaine? Je sais pas. J'en sais rien, en fait, ça va dépendre de l'album. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça que je fonctionne.
Et du coup, t'as encore quand même, de par ton métier ou tout simplement le kiff perso, t'as encore cette envie de diguer et de rechercher un petit peu une sorte de les pépites ou quoi, les vraiment ou plus du tout.
De ouf. Cet été, j'étais un peu en... tu sais, je sentais que la rentrée allait être calme, on en parlait en antenne, il y avait pas grand-chose d'annoncé et j'étais en mode ça me saoule. Et là, maintenant que c'est reparti, en fait, plus rien d'autre n'est important, en fait, genre c'est le rap. Je suis retombé alors que j'étais vraiment en mode je crois que ça y est là cette année, c'est un peu calme peut-être et en fait non, je suis vraiment complètement repiqué et dès que j'entends des nouveaux trucs, je vois des nouveaux, évidemment, enfin, et puis c'est ça le rap en fait. Genre enfin, si tu veux encore être dedans, tu peux pas juste écouter des vieux trucs, c'est pas possible. Enfin, t'as le droit, mais tu peux pas prétendre en tout cas avoir la prétention.
Oui, là où t'es en tout cas aujourd'hui, c'est pas possible.
Non. Et puis c'est une musique qui est bousculée par les jeunes. C'est une musique qui est... c'est eux qui la... ça fait 40 ans que ce sont des jeunes qui la recomposent à chaque fois, tout le temps, tous les ans. Donc si t'es plus intéressé par ça, ou si tu ne comprends plus, t'as le droit. Mais ça veut dire que peut-être c'est fini quoi.
mais il faut faire autre chose.
Ouais, exactement. Ouais. Mais non, ça m'a... évidemment, c'est trop important et intéressant. Et en vrai, il y a même les fois où genre j'en ai un peu, je suis fatigué le soir, genre, le rap ça m'a cassé la tête. En fait, le matin je me réveille, je me dis bon, qu'est-ce qui s'est passé là. En fait, c'est comme ça que ça se passe en vrai. Voilà,
je pense qu'on peut passer au son d'après. Alors pour ce premier son, Mehdi, qu'on t'a ramené, J'avoue que j'ai beaucoup hésité, ça a été un vrai casse-tête. Moi, j'aurais aimé t'amener une petite pépite, un truc que j'aurais découvert récemment. Sauf que, en vrai, j'ai l'impression d'avoir grillé un certain nombre de cartouches dans nos émissions d'avant.
Non, trop podcast, content. Beaucoup,
je suis trop pressé, donc
podcast.
Forcément, je les ramène ici. Et donc, c'est trop tard, en fait. Donc, je vais pas imposer ça à nos auditeurs. En vrai, il faut pas se leurrer. Je pense que t'es quelqu'un qui écoute de la musique, comme on disait, toute la journée, du rap particulièrement. Donc, je peux me lever tôt pour te faire découvrir quelque chose.
Oh, je sais pas, mais bon.
J'aurais aimé te parler des heures de Kanye West, de sa carrière. Pourquoi Blonde on the Leaves est le meilleur morceau de Kanye West et de Donda? Parce que moi, j'avoue qu'effectivement, j'ai trouvé que c'était un album vraiment pas mal. Mais encore, bon, je pense qu'on
va parler... Le meilleur morceau, c'est Flashing Lights, mais bon, voilà. C'est
un débat. Attention, on rentre dans le débat ou pas. Non, en vrai, et puis Kanye West n'a pas besoin de moi pour qu'on écoute son album. Ouais. Donc on va... j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Donc, je suis reparti aux origines, là où j'ai découvert ton travail, en l'occurrence en 2015. À ce moment-là, moi, ça fait déjà quelques années que je me suis vraiment plongé dans le rap. J'en écoute quotidiennement. À ce moment-là, j'ai même réalisé quelques clips pour certains rappeurs. Du coup, j'adore écouter les contenus auxquels tu participes. Je pense à l'ABCDR du son, je pense à No Fun, je pense à Deeper Than Rap. Et du coup, à cette époque, en 2015, tu ne taris pas d'éloges à propos d'un rappeur, moi, qui m'est totalement inconnu et qui s'appelle Samir Ahmad.
Ah ouais.
Et du coup, moi, je découvre Samir Ahmad. À ce moment-là, il vient de sortir...
Perdant Magnifique.
Exactement.
C'est sorti en 2014, je crois. Ouais.
C'est ça, fin 2014, je crois, décembre 2014. Donc, je découvre ça grâce à toi. Je propose tout de suite, voilà, pour que nos auditeurs sachent de quoi on parle, qu'on écoute le morceau Nouveau Sinatra, extrait de ce même album. Et puis après, bah voilà, on en parle un peu plus de Samir Ahmad. Moi, je vous dis ce que j'aime bien, mais j'ai hâte, évidemment, de t'entendre à nouveau nous parler bien de Samir.
J'ai giflé le silence et j'installe un flashback. Un pack de face sous la snapback. Un cocktail de macaque et de visage pâle. J'suis qu'un scarlin stable sans signe astral. Nouveau Sinatra, terre à terre. Ce monde me tiendra tête ou me traitera traître. Et c'est le dilemme de l'indigène, style indirect. Faire du business en 26 lettres. Que la race humaine se taise et ferme sa gueule. L'important c'est pas la chute, c'est la terre d'accueil. Ce soir, dégueule mon encre noire, mon cash flow, mon sang chaud avant la chambre froide. Une putain de chute, un surhomme sur une civière. Aujourd'hui, c'est juste hier, avec plus d'insultes. C'est mon truc d'inculte. Mon amertume est juste un sucre. Commence par la paix comme pugilat, nouveau Sinatra, je déclare la guerre en une syllabe.
C'était Nouveau Sinatra de Samir Ahmad. Bon, je vais être honnête, je vais pas te demander si t'aimes bien vu l'intro que je viens de faire.
Ouais, non.
Je crois bof. A priori, il connaissait pas trop les paroles.
Voilà. Mais je suis content d'avoir, du coup, moi je ne savais pas que tu connaissais.
Bah ouais, bah c'était la période où j'étais à Prune, donc la radio locale pour laquelle je bossais à Nantes et où j'étais en... Mon travail, c'était de faire des chroniques et de mettre en avant la programmation musicale des bénévoles. Donc, quand ça s'est sorti, c'était dans la playlist. Ouais.
Qu'est-ce qui, tu te souviens comment t'avais découvert Samir Ahmad et qu'est-ce qui t'avait particulièrement plu
dans
ça?
En fait, je l'avais découvert un peu avant parce qu'il sortait déjà des projets depuis 4-5 ans avant ça. Sur l'ABCDR du son, dont je faisais partie, il avait déjà été interviewé, pas par moi. Mais en fait, avant, c'est terrible parce qu'en fait, je dis toujours je parle toujours des mêmes artistes, je me dégoûte. Je vais encore parler de Benny Dan.
Vraiment, c'est un peu une passe dé. Je vais pas te mentir.
Ouais,
je sais ce qu'il y a.
Parce qu'en fait, il y a. C'est marrant, je viens de me rappeler d'une anecdote d'ailleurs. Bref, je la raconterai après. Je crois que je l'ai écouté d'abord grâce à une interview de la BCDR et à cause d'une phrase qui dit où il parle de ses influences, etc. Et il parle de Nak notamment, qui est un mec que j'ai beaucoup écouté. Et après, il parle de Daniel Lacoué. Danny Dan, et à un moment il fit une phase de Danny. Je crois que c'est sur le morceau Bienvenue à Babylone, si je dis pas de bêtises, sur Poétiquement Correct. Bref, et il fit une phase qui est j'ai fait un U-turn comme l'ex de Madonna. Et il explique à quel point cette phase pour lui est incroyable, Parce qu'en fait, genre, en quelques mots, il y a trop de rêves. Genre, j'ai fait un U-turn, un demi-tour. U-turn, c'est un film avec Sean Penn. Sean Penn, c'est l'ex de Madonna. Waouh! C'est genre, plutôt que de... En fait, c'est toujours ce truc-là. C'est un peu ces rimeurs du 9-2. C'est plutôt que de dire. Enfin, d'être évident, c'est un peu dans la. C'est comme quand. C'est moins subtil, mais c'est comme quand Booba dit j'ai fait des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. C'est plutôt que de dire je pisse sur Marianne, comme genre tous les rappeurs de l'époque. Il y a un truc quand même qui est genre. Ouais. C'est autre chose en vrai. C'est autre chose. Et bref, et donc, cette manière de parler de Dany, de son écriture et de ses refs, m'a donné envie de l'écouter. Et du coup, quand je l'ai écouté, même si c'était moins bien que Perdant Magnifique, qui est d'ailleurs un titre d'album extraordinaire, ouais. Par ailleurs,
on va en parler.
et bref, et du coup, j'ai écouté ce gars-là, et effectivement, je voyais les refs, mais j'entendais d'ailleurs plus Hill des X-Men que Dany dans l'écriture, ouais. dans les placements, dans les flows. Et je trouvais ça cool, mais sans plus en vrai, sur ce qu'il avait fait avant. Et l'anecdote dont je viens de me souvenir, c'est que. Avec mon ex, on rentrait, mes premières vacances que j'ai fait en couple, je rentrais de Tunisie et on écoutait un album de Samir Evan, je sais plus lequel ensemble. C'est un morceau où il y a une phase sur sa maîtresse et il dit oh les mains, la maîtresse en maillot de bain. C'était le refrain, ça. D'accord. Voilà. Mais je sais plus c'est quoi le titre du morceau.
C'est sur Justin Herman Plaza, ça.
Non, ça c'est cool. Ouais. Justin Herman Plaza, ça commence vraiment à être très bien. Je sais même pas s'il est sur les plateformes en vrai.
Ah bah, peut-être que c'est peut-être avant, ouais, effectivement, je sais pas sur les plateformes. Sur les plateformes.
Mais c'est un morceau qui était cool. Mais en fait, il s'était pas encore lâché, Samir Herman, à ce moment-là. Il avait pas encore trouvé son truc. Et sur Perdant Magnifique, je trouve qu'il commence à le trouver sur Justin Herman Plaza, qui est vraiment très bien. Et sur Perdant Magnifique, en fait, il y a vraiment un truc de. Bon, c'est un peu des manières un peu bateau de parler de musique, mais parce que c'est des comparaisons qu'on fait souvent avec des rappeurs un peu libres, mais tu sais, il y a un truc un peu, je pense ne pas le désavouer en disant ça, mais un truc un peu jazz, je sais pas, il y a un truc genre
musical hyper,
ouais, enfin free, libre, tu vois, il y a vraiment un truc ça n'est plus du tout mathématique comme ça peut l'être parfois où t'as des morceaux boum, couplet refrain, et c'est comme ça que la musique existe depuis longtemps. Mais là on est sur du couplet et du refrain, mais il y a un truc qui est très, je sais pas, en fait il atteint le truc qui est pour moi le plus beau dans le rap, et pas que dans le rap, c'est quand la technique elle se voit pas. Quand tout en vrai est millimétré, mais que ça ne se voit pas. Quand on n'est pas en train de te dire, hey, regarde, j'ai fait 36 000 assonances et 12 000 allitérations, et c'est En fait, là, c'est super technique sa manière d'écrire.
Ouais, et puis c'est bourré de figures de style.
Mais c'est très nonchalant.
Ouais.
Un peu comme Hill, qui est le roi de ça. C'est comme dans le foot, en fait. Pour moi, les plus beaux joueurs, les joueurs les plus élégants, c'est ceux, en fait, où. Tout est beau, mais fait de manière très simple, en fait. Genre, et pas quand on te fait 36 000 passements de jambes pour, au final,
tomber par terre. Et
exactement. voilà, la technique nonchalante un petit peu. Et puis après, c'est les refs. C'est-à-dire que genre, y a pas une ref à la pop culture genre qui ne me parle pas. Donc j'ai l'impression que si j'avais été rappeur, ce qui, Dieu merci, n'est pas le cas, j'aurais été lui, en fait. En tout cas, j'aurais voulu être lui sur cet album-là, parler des mêmes choses, avoir les mêmes rêves cinématographiques, littéraires, musicales. C'est exactement ce que j'aime et ce avec quoi j'ai grandi aussi, même si on n'a pas exactement le même âge. Donc c'est un album très, très important pour moi, vraiment. J'adore ce disque.
Moi, je trouve, en plus, tu parles de ref, etc. Moi, c'est l'une des choses aussi que j'apprécie chez Samir Ahmad, c'est que il y a justement ces bourrées de, comme disait, de figures de style, de ref ou quoi. Mais ça vient pas non plus parasiter.
Non.
L'écoute. Et ça, je trouve ça très fort. C'est-à-dire, c'est quand tu te fais malgré tout. J'aime bien parce que je crois que dans une de ses interviews, il compare son écriture à celle de Tarantino. C'est-à-dire, il dit dans le cinéma de Tarantino, c'est bourré de références. T'as la ref, t'es trop content.
Mais si tu l'as pas, tu comprends le film.
Exactement.
Exactement.
Tu te laisses porter. Et je trouve que c'est un peu ça. Néanmoins, même si ça donne justement, tu sens qu'il y a un terreau à aller diguer.
Ah bah de toute façon, c'est toujours mieux quand tu capes le clin d'œil.
Ouais.
En fait, t'es toujours fier. C'est comme dans un film, j'ai vu le truc. Moi, quand j'ai vu Kill Bill la première fois, toutes les rêves de Tarantino au cinéma asiatique, je les comprenais pas parce que c'est pas du tout ma culture. J'ai trouvé Kill Bill extraordinaire. Donc,
ouais,
tu peux. Mais c'est vrai que c'est mieux. Quand t'as les rêves, c'est mieux.
Et puis c'est ce qui donne aussi, je trouve, envie de réécouter. C'est-à-dire que parce qu'il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser dans l'écriture, mais c'est peut-être parce que c'est très personnel, mais je trouve à bien des gars, il y a des choses qui me plaisent dans la musique de Samir Ahmad. Mais il y a quelque chose qui me fait penser à Népal, justement, dans cette écriture un peu. Tu vois, bourrée de références.
Ouais, ouais.
Vraiment, c'est compliqué de tout capter à première écoute. Et en même temps, il y a ce charisme. C'est dans l'élocution qui tout de suite, moi je trouve, m'attrape, et que ça soit au niveau de l'attention, mais émotionnellement aussi. Parce que, je sais pas, je trouve que la manière dont il projette et dont il se pose sur le morceau, moi ça me touche tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui, moi me fait le même effet avec Népal. Et je trouve que aussi dans le dernier point, il y a quelque chose qui,
pourrait presque donner à certains moments de la musique ésotérique dans ce que ça raconte. Tu vois, il y a une sorte d'envie d'élévation, ouais, et de... Vas-y, on essaie de se mettre au-dessus de la mêlée, que j'aime bien. Et moi, pareil, qui, je pense, me touche quand j'écoute l'album. Et du coup, tu parlais du titre, évidemment. Perdant Magnifique, qui est, en plus, je trouve un titre magnifique. Mais ouais, toi, je crois savoir quand même que tu... que c'est un peu une de tes marottes, en fait, un peu dans les rappeurs que tu... ou même, bah, les artistes,
c'est pas voulu, hein.
Non, non, non.
Moi, j'aimerais bien que les gens que j'aime soient tous multimillionnaires, hein. Je leur souhaite, en tout cas, si c'est ce qu'ils veulent. Mais je fais pas exprès de les aimer, parce que c'est pas bien de dire ça, mais j'aime bien ceux qui auraient pu, quoi. Ouais. Ceux qui avaient tout, mais qui sont pas allés au bout. Il y a un truc, quand même, qui est... que je trouve touchant, même dans, encore une fois, même dans le foot, moi, comme ça, mais genre, bah, évidemment, j'aime Zidane comme tout le monde, c'est nul, mais mais il y a des joueurs que, genre Alvaro Recoba, par exemple, qui est un joueur, qui est un joueur uruguayen, qui était un peu de la même génération que Zizou, et qui était trop fort, genre techniquement, qui était un... J'aime bien les joueurs élégants, un peu feignants. Hop, dans le foot, dans le rap, pardon, Hill, des X-Men, donc quand j'avais interviewé Hill vers 2013-2014, alors que quand j'interview Hill, pour moi, c'est genre vraiment, je coche une case de fou dans ma vie à ce moment-là. Et lui, quand je l'ai interviewé, j'ai compris ça. J'ai compris qu'en fait, il rappait pour l'amour du beau geste. Vraiment. Alors qu'en fait, lui, et tous les gens qui l'ont fréquenté à l'époque se disent qu'il n'a jamais été aussi fort en freestyle improvisé devant le tarmac de l'aéroport, plutôt que dans un studio quand il faut enregistrer l'album qui est censé te rendre riche, en fait. Et on peut se dire, c'est relou. On peut se dire aussi, c'est beau, quoi. Il y a truc où tu le pratiques d'abord pour... parce que t'aimes vraiment ça, pour la beauté du geste, quoi. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours touché. Et après, évidemment, quand les rappeurs arrivent à mettre de l'eau dans leur vin et à transformer ce truc-là en quelque chose qui est lisible pour tout le monde, c'est le cas d'un mec comme Dinos, par exemple, dans le rap actuel. Je trouve qu'il a réussi à devenir celui qu'il devait être, quoi. C'est-à-dire, il part d'un truc où le mec, il est bousillé de rap et en fait, c'est pas censé marcher, c'est trop référencé. Un peu comme Samir Hamad, et aujourd'hui c'est un mec qui est 10 de platine. Et en vrai, je préfère quand ça se passe comme ça, quand le chemin, quand la chenille devient un papillon, quoi. Tu vois, c'est mieux. Mais c'est vrai que, ouais, il s'avère qu'il y a plein d'artistes que j'aime et qui j'ai donné beaucoup d'amour, qui ont eu un peu de mal à trouver leur public. Mais je pense que c'est en train de changer, ça. Je pense que maintenant c'est de plus en plus possible de trouver ton public qui te permet, ouais, de vivre. Sans forcément devenir une superstar, ça on s'en fout, mais genre de vivre de ta musique, de tourner, etc. Et on a eu plein d'exemples comme ça ces dernières années, et c'est super, c'est cool, en fait. Moi, je me souviens, enfin, quand je me souviens, j'avais fait un tweet pour dire que Freeze allait faire 15 000 en première semaine, et on s'est foutu de ma gueule, parce que c'était vraiment improbable qu'un mec comme lui vende autant d'albums il y a encore 2 ans. C'était pas possible, ouais, en fait, ça n'existait pas. Donc là, je crois que voilà, il y a d'autres publics qui sont mis en place. Donc,
Et tu penses que c'est dû à quoi, ça? Je pense que c'est le streaming.
Ouais, ouais. Évidemment, bien sûr, je pense que ça a tout changé, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, contrairement à les rappeurs de 2000, pas que les rappeurs, là je parle des rappeurs parce que c'est ceux que je connais le plus, mais ceux de 2008-2009, les Salif, les Nesbill, s'il y avait eu le streaming, ils auraient...
Ils auraient marché, quoi. Bah, ouais, oui,
c'est sûr. Public, c'est sûr. Et là, effectivement, en fait, on a rendu légal, avec le streaming, des écoutes qui étaient illégales pendant des années. Donc c'est incroyable, quoi. Ouais. Et en plus, ça génère de l'argent. Donc ça a complètement relancé le business de la musique, hein, évidemment. Mais donc il y a ça. Et puis il y a aussi, je crois, le rap étant la musique qui agite le plus les gens et les jeunes, il y a quand même des jeunes qui sont déterminés, quoi. C'est-à-dire que quand un rappeur dit « je vais sortir mon album avec un t-shirt, je mets en précommande un mois avant », on voit les chiffres de précommande, les gens sont engagés, en fait. Mmh. Ils ont envie de soutenir les gens à nouveau. Pas en allant acheter un CD à la Fnac, parce que c'est pas leur truc, mais par contre, acheter un t-shirt avec un CD dedans, c'est cool, ça leur fait un truc, ou un vinyle.
Ouais, bien sûr.
Ils font comme moi, c'est des escrocs, ils l'affichent, mais ils l'écoutent pas. Mais voilà, je crois qu'il y a un public aussi qui est super engagé, qui a compris, ils ont envie de soutenir leurs artistes. Et
je trouve qu'il y a un truc aussi qui a changé dans la consommation de musique, et moi qui ai un truc sur lequel je galère un peu, parce que bah, moi je fais des soirées où il faut qu'on connaisse les trucs pop qui marchent et tout.
Ouais.
Et en fait, je trouve que moi sur la décennie 2010, c'est giga difficile.
Ouais. C'est quoi la pop musique?
D'avoir ça, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des petites niches un peu partout, ouais, et du coup, des trucs qui vont avoir des millions d'écoutes. Tu vas faire, attends, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Bah ouais,
qu'est-ce
c'est,
tu vois.
C'est vrai, surtout, genre, si tu regardes le début de la décennie, enfin, les trucs qui cartonnaient en pop, c'est pas du tout ce qui marche. Genre Katy Perry, les trucs EDM,
c'est Steve Aoki.
Voilà,
ouais.
C'est des trucs genre, enfin.
Ça paraît le meilleur il y a 100 ans, quoi.
Exactement. Mmh. Et d'ailleurs, je trouve que cette période de la pop musique, elle vit super mal.
C'est un enfer.
Alors qu'il y a des trucs qu'on, tu vois, qui sont plus vieux que ça, qui vieillissent mieux. Et je dis ça aussi parce que j'ai réécouté le deuxième album de Relson, Le Chant des Sirènes, qui sort en 2012. Et je trouve que cette époque-là, lui, il est très fort en tant que rappeur, mais les prods, c'est vraiment 2012, quoi. Ouais. Et t'es avec des trucs dubstep, mon Dieu, des trucs. Et vraiment, c'est une époque qui était un peu grossière, je trouve. Et je suis content que la pop musique ait évolué. Moi, enfin, je m'emmerdais vraiment quand c'était ça, quoi. L'espèce d'EDM qu'avait gagné.
Bah, tu sais, ouais, quand Nicki Minaj, elle sort.
Ouais, voilà. Cette époque-là, c'est horrible.
Je sais même plus comment ça s'appelle.
Starships, non, c'était
Starships,
pas.
Enfin, ouais, ouais.
Ça, je crois. Hein.
Starships, ouais. C'est, pour moi, c'est difficile, quoi. Je suis vraiment en mode. Ah là là.
Moi, je déteste cette époque de la pop musique, vraiment, c'est con parce que moi j'arrivais à Paris, j'avais 25 ans.
T'avais envie de sortir,
les soirées, enfin, c'était vraiment. Et ce qui était cool à cette époque-là, c'est que moi j'étais en coloc avec toujours un ami à moi et DJ. Il y avait un peu toute la période de la new disco, d'électro un peu funky et tout, et c'était mignon. Ouais. J'aimais bien, donc voilà, c'est dans ces soirées-là que j'allais du coup.
C'était tes soirées, ouais.
Ouais, ouais, voilà, c'était un peu ça que j'écoutais.
Et maintenant, c'est toi qui fais les soirées, vous avez refait une main sportive.
Ouais,
il y a pas
parce que maintenant on a la chance de pouvoir jouer du rap toute la nuit, du rap français. Les gens sont contents, c'est pas possible avant.
Ah ouais.
Ça, donc vraiment, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai trop envie en fait.
Ouais, mais c'est mec, c'est trop bien, c'est lunaire en fait. C'est-à-dire que t'es là, tu joues Alpha One à 3h du matin, les gens connaissent tout par cœur et t'as l'impression que tu joues Steve Aoki en 2012. ça n'a aucun sens en fait. Ces jeunes-là, en fait, ils sont bousillés au rap, quoi. Ils aiment trop ça, ils connaissent tout par cœur, mais c'est cool parce qu'au moins dans ces soirées-là, tu te contentes pas de jouer juste les gros tubes rap du moment, même si on en joue aussi évidemment. Mais voilà, donc.
Non, mais tu sais que les gens vont être réceptifs et même.
Bah, déjà, c'est des seules soirées où tu sais, je sais que je peux mettre genre un Hamza tous les trois morceaux et personne dit rien.
Les gens vont donner de l'amour à ce
moment-là. Ouais, surtout quand il y a un moment où, genre, ça c'est mon problème, mais quand je commence à être un peu bourré, je suis insupportable. Genre, j'ai tout le temps dit, mais Hamza gros, mais Hamza. En fait, j'ai l'impression qu'il y a pas. Et des fois, genre, mais t'as pas mis Hamza en fait. Et si, mec, ça fait genre une heure qu'on joue Hamza tous les deux titres. Et il y a vraiment un moment comme ça où, passer un certain niveau d'alcool, je ne veux entendre que lui, quoi. C'est très très gênant, mais les gens s'en sont pas encore plaints. À part 2-3 DJ. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où, genre, j'ai trop envie d'écouter Hamza, quoi. Genre, que lui. Mais bon, ça c'est.
Les albums en boucle. C'est
je rêve. En fait, j'ai vraiment envie de faire un truc, c'est que. C'était à l'époque de Nothing Was The Same, je crois. Il y avait. Bon, j'étais allé au concert. Et après, il y avait une soirée au Social, à l'époque. C'était encore le Social. Full Drake, avec Louis Chen qui mixait, notamment. Okay. Et en fait, la soirée, c'était. On joue que du Drake et affilié. Les feats, etc. Ouais. Mais c'est que du Drake. Et j'avais kiffé. Parce qu'en plus, c'était l'époque où Drake
incroyable.
Était. Voilà, c'est.
Je te vois venir.
Voilà, t'as compris ce que j'aimerais faire. Hamza. Lightful Hamza, c'est un vrai projet, quoi. J'aimerais bien le faire.
Franchement, ça se fait,
mais
là.
Ouais, ouais, il
dans
a
la
assez,
discographie il a de Hamza, il y a de quoi faire.
Ouais, ouais, complètement. En plus, si tu
full teaser.
Je pense qu'on peut. On peut ouais.
Tenir un bon moment, hein.
Ouais. Voilà,
on peut tout faire. J'aime bien aussi ce que tu fais dans le code, justement, un peu les. Quand tu. Les émissions un peu thématiques autour d'un artiste,
ah ouais, ouais.
Et de ça, bah, c'est un peu. Un peu de ça maintenant.
Ouais, ouais, carrément.
Rajoute la fête et.
Ouais, ouais, c'est ça, carrément. Donc, ouais, je me dis, enfin, un truc full Hamza, ça peut être marrant, voilà. Peut-être qu'on va le faire. Je sais pas. J'ai pas du tout un projet, mais j'aimerais bien le faire.
Bah, écoutez, moi en tout cas, on va clôturer du coup le passage
sur
Samir Hamad.
Oui, parce qu'on a ouais. Non, un peu divagué.
En tout cas, on a l'habitude, c'est dans l'émission, du coup, de donner un peu des petits trocos pour vous inviter en fait à aller approfondir en fait ce que vous avez entendu avec Nouveau Sinatra. Je vous conseille évidemment Perdant Magnifique l'album. Moi je suis très content parce que bah, comme tu disais Mos, c'est pareil, il est devenu un peu l'un de mes albums rap préférés, ouais. Et donc je suis content de la même manière que toi il y a quelques années bah, tu m'as invité à aller écouter et ben là j'invite tous nos auditeurs à du coup aller le découvrir parce que ouais. L'album est excellent. Moi dans les autres projets qu'il a sortis, j'ai beaucoup d'amour pour celui qui est sorti en 2017 qui s'appelle Un Amour Suprême, la partie Jovan ouais. Tae.
Qui trop est bien, mec.
Voilà. C'est la musique de Ride, on a l'habitude ouais. Un peu de parler de ça.
Ouais, il revient à son amour du skate, c'était un skater
ouais.
Hein, dans les années 90.
C'est ça,
90
ouais, il a
tout,
ça,
hein.
Il vient de Montpellier et tout, et c'est vrai c'est que
bien,
ça quoi. Respire le soleil, donc profitez-en tant que vous
tu m'as bien envie de le réécouter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté.
Et bah écoute, je pense qu'à mon avis, tu vois, tout à l'heure en rentrant, ça sera un avis parfait. Et puis d'habitude, j'ai toujours une troisième recommandation, mais là, vu que j'en profite, t'es là, est-ce que t'aurais. Soit un projet à conseiller de Samir Hamad, soit même affilié, parce que moi j'avoue que j'ai pas tout ton background, donc moi quand j'ai écouté Samir Hamad à l'époque, j'ai l'impression d'entendre vraiment un pas de côté, comparé à ce qui se fait.
Je pense que son influence principale dans le rap français c'est Hill, des X-Men,
okay.
Donc je conseillerais aux gens d'écouter la mixtape Ainsi Soit-Il,
ouais, ouais.
Qui est une mixtape qui recense des freestyles plus inédits, c'est un peu le bordel. Ouais. Mais c'est le seul truc solo qu'on a deal, donc on va s'en contenter. et il y a des trucs qui sont extraordinaires, quoi. Et en fait, si vous aimez la rime, si vous aimez tout ce qu'on a dit sur les mecs qui sont trop forts mais qui le montrent pas, quoi. les vrais boss en fait, ouais. Ceux qui n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont forts, ben il c'est le meilleur pour ça. Donc il y a vraiment des tournures, des, enfin je sais pas, bref, c'est trop bien. Ça et puis le premier album des X-Men, Jeune Coupable et Libre, qui où il y a des, quand même des, qui est un album qui avait déçu à l'époque, mais en vrai quand tu les réécoutes, il y a quand même des grands trucs dessus. Ouais, je dirais ça, je dirais il. Je pense que pour bien comprendre, si on aime Samir Ahmad, c'est bien de d'écouter. Ouais. Ouais, c'est comme si t'aimes De Palma, faut que tu regardes Hitchcock. Tu
exactement.
Ouais. Donc il et le Hitchcock de Samir Ahmad.
Très bien, et voilà. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à écouter. Je vous propose tout de suite qu'on passe au son d'après. Ton deuxième morceau du coup, Mehdi, qu'est-ce que tu nous as ramené? Ouais, c'est à toi.
Alors là, pour le coup, comme Louis, tu m'avais dit qu'on pouvait aussi mettre des trucs.
Ouais, j'ai dit, il n'y a pas de limite.
C'est toujours rap, hein, je suis désolé, mais on va aller à New York et on va faire aussi un lien avec l'actualité. Mais on va parler d'un rappeur que j'aime énormément, dont j'ai pas tant parlé que ça dans mes différentes interventions. C'est un rappeur qui s'appelle AZ. AZ. Pour, voilà. Et donc c'est un rappeur new-yorkais qui a fait une irruption dans le monde du rap sur l'album Illmatic de Nas en 94 sur le morceau Life is a Beach. Et en fait, bon, Illmatic, pour les personnes qui connaissent pas, c'est un des albums vraiment définitifs du rap américain, du rap new-yorkais aussi. Ça remet même New York un peu sur la carte, au premier plan de la carte, quand Los Angeles avait pris le dessus au début de la décennie 90. Et Nas donc fait un album qui est parfait. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc on va pas en parler, mais écoutez cet album qui est vraiment formidable. Et il y a sur la piste 3, Life is a Beach, il y a AZ, que personne ne connaît à ce moment-là, qui fait un couplet extraordinaire et qui est un peu... c'est le moment où genre, bon, Nas est parfait sur tout l'album, mais là il se fait un peu voler la vedette par AZ, qui est vraiment en mode... Là pour le coup j'en mets plein la gueule à tout le monde. Par rapport à ce qu'on disait sur Samir Ahmad, il est vraiment technique, ça rappe vite, c'est trop trop bien. Et du coup tout le monde s'est dit, mais qui est ce gars-là? Fort un peu du succès du parrainage de Nas, il a sorti son premier album qui s'appelle Do or Die en 96, qui est un classique du rap new-yorkais, 95 ou 97, je sais plus, bref, dans ces eaux-là. Il faisait aussi partie du groupe The Firm de Nas, qui était un projet qui a été un énorme flop à l'époque, mais qui est assez cool en vrai. C'était surtout c'était New York qui reconnectait avec Los Angeles après la guerre New York, elle est Tupac Biggie, parce qu'il y avait des prods de Dr. Dre pour Nas, ce qui était un vrai événement à l'époque, même si encore une fois ça a pas complètement fonctionné. Bref, je reviens sur AZ, mais du coup lui a initié sa carrière en solo comme ça. C'est jamais devenu une star pour le coup. On parlait de Perdant Magnifique, c'est un peu, moi c'est un rappeur que j'adore parce que c'est un mec que je trouve plus fort que plein de gens, mais qui a jamais réussi à faire le morceau qui lui permettait d'entrer, qui a jamais réussi à devenir Jay-Z. Mais en fait AZ, Meat et Jay-Z, c'est, ils sont au même niveau en fait en 96, quoi. Et sauf qu'il y en a un qui a dit, ouais, mais pour marcher il faut que je ralentisse mon flow, il faut que j'arrête d'être juste dans la technique, il faut que je fasse des tubes, et ça c'est Jay-Z. Et l'autre qui a dit, moi je vais faire du rap new-yorkais, je vais être habillé en Timberland toute ma vie, en baggy, et rapper sur des rooftops new-yorkais avec des colombes, quoi. Et chacun sa carrière, quoi. Et la carrière d'Aizy, non, mais la carrière d'Aizy est très respectable, parce que franchement, moi c'est un mec que j'ai continué à écouter toutes les années 2000-2010. J'ai un peu lâché ces dernières années jusqu'à un truc récent dont je vais parler, mais il a toujours fait les mêmes albums, quoi. C'est un mec qui, pour le coup, a fait les mêmes trucs new-yorkais avec des voix pitchées, des samples de sol, du boom-bap, des scratchs, et lui qui rappe trop bien. Donc c'était un peu une sorte de point de repère dans mon ADN rap. Je savais qu'AZ, quand il sort un album, je sais exactement ce que je vais trouver. Et ça fait aussi un peu du bien parfois de dire, ah vas-y, j'ai envie d'écouter un truc boom-bap, je vais écouter AZ. Et là, il a sorti du coup la suite de Do or Die. Il a sorti Do or Die 2, je sais pas, 15 ans après, quoi, du coup. C'est très bien, c'est un très bon album, vraiment, qui est encore, lui, il est encore super en forme. Bref, c'est pas le sujet du jour, j'ai tout ça, mais en fait, là, on va parler d'un morceau qui, je crois, de 2003 ou 2004, sur l'album AWOL. Le morceau, c'est The Come Up, c'est produit par DJ Premier. Et donc, DJ Premier, qui est un producteur mythique du rap new-yorkais, même si lui est pas de New York, mais bref, Gangstar, c'est son groupe, avec Guru, qui repose en paix, et c'est un groupe, enfin... décisif lui aussi dans l'histoire du rap new-yorkais. C'est un peu, pour moi, Primo dans ma tête, c'est toujours genre, tu veux un son new-yorkais, t'appelles Primo. Genre, c'est le rap new-yorkais. Boom bap, la découpe de samples super précise, le scratch au refrain, il y a toujours des scratchs au refrain. C'est un peu le cliché de ce qu'on appelle hip-hop, quoi. Genre, ouais. Le hip-hop pour moi, c'est Primo, c'est DJ Premier. Et donc, ce morceau-là, il faut voir le clip. Genre, c'est un cliché. Genre, ils sont vraiment, t'as que des. C'est en noir et blanc. À New York, t'as que des Timberland, des mecs en baggy, des colombes dont je parlais, et AZ qui rappe avec des gestuels d'anciens comme ça, et c'est trop 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 bien. Ça fait genre, je sais pas, c'est vraiment genre, moi ça me fait du bien de voir ça, genre c'est une photographie d'un du rap des débuts des années 2000, et je me souviens que j'ai découvert ce clip là sur un site qui s'appelait Rap2K à l'époque.
Ça me dit un truc.
Et je l'ai découvert sur un player, Real Player. Vous vous souvenez de ça?
Oui, oui, tout à fait.
Un enfer. Et donc je découvre ça et il n'y avait pas YouTube en fait. C'est fou de se dire ça. Et donc j'allais, je retournais sur Rap2K pour voir ce clip-là. Et un jour je le montre à un pote à moi. Et lui, en fait, c'est lui qui m'a fait comprendre à quel point. Il me dit, mais mec, mais c'est incroyable, genre, c'est tout ce qu'on aime, c'est fou, DJ Premier. Et c'est une de mes prods préférées, DJ Premier, vraiment. Et pourtant, Dieu sait que c'est un gros, gros producteur.
Oh, il en a pas trop fait. Non.
Ouais, ouais, ouais. Et voilà, et donc j'adore ce morceau parce que c'est un cliché, en fait. C'est un cliché du rap new-yorkais. Et c'est aussi pour dire aux gens d'écouter Aizy. Enfin, si ça vous intéresse, écoutez Aizy parce que c'est vraiment un très grand second rôle du rap new-yorkais de ces 20 dernières années, en fait. Et il a été invité sur King's Disease de Nas l'année dernière, sur l'album de l'année dernière, et il avait, en fait il avait reconstitué The Firm sur un morceau avec Foxy Brown et tout, et c'était trop bien, voilà. Et ça fait vraiment genre Expendables du rap, mais c'est cool. Et voilà, donc non j'aime beaucoup Aizy et j'adore ce morceau qu'on va écouter, The Come Up. You know the come up, stack it right, put the gun up, laugh, get nice, split the blunt up, gray, blue and white, don't run up, remain humble, you see the change when the rains come through, when all the fame ups your game, cause your name's mumbled, the chicks notice, use us like hypnosis, it's ferocious, when broke niggas get focused, the cars come out, bottles at the bar run out, you know you're large when you in car, can dodge a drought, but here's the twist up, with beef and the money mix up, skirts slip up, a few fights, few stick ups, then one little thing just leaves to the next, and here come them hot boys to breathe down your neck. Now you gotta back up, flee from the rest. And just a week ago, you was free from the stress. Stress. I guess it is what it is. Creeping on the come up. Bitch is yours for the taking. Creeping on the come up. I'm from the place where hardcore is beautiful. Creeping on the come up. Bitch is yours for the taking. I'm from the place Brooklyn. You know the saga, who lava, who hotter, who shot at who at the Ramada. I knew about beasts since Bambada, before B Street, streets was heavily deep with the riders, guns and money, some was hungry, dysfunctional families that come from junkies, jailbirds who wanted warrants, jumping countries, just jungle surviving like a bunch of monkeys, mark dollars, DEA knocks with collars, niggas snitching, and still got the heart to holler, hot chicks in short skirts and damn near topless, play fly, nigga, I sip, stay high, and just ride dick, can't call it too fresh to
spoil. Trop bien, c'était Aizy. Est-ce que tu peux me rappeler le titre du morceau?
Bien sûr, The Come Up.
The Come Up. Eh ben écoute, moi je suis très content parce que je connaissais pas Aizy, en fait, tu vois. Je pense que j'avais écouté, j'avais vraiment beaucoup aimé King's Disease, mais sorti l'année dernière, mais j'avais pas forcément
capter les feats, quoi.
Capter les feats et tout, et du coup ça me donne
C'est un vétéran qui a fait plein de trucs cool, donc si ce genre de rap vous plaît, franchement écoutez, creusez, ça vous plaira, je pense.
C'est cool. Mais moi je me rends compte, enfin tu sais, genre vraiment les lacunes sont énormes. Tout
c'est
ce
pas
qui
des
est
lacunes,
ouais, mais c'est juste il y a toujours des trucs à creuser.
Ouais, mais de toute façon, en fait, c'est, je sais pas, dès que tu t'intéresses à un genre musical que tu écoutais, que t'as peut-être pas écouté pendant 10 ans avant, c'est infini, quoi. Ouais. Moi, il y a des moments où je me suis dit, allez, maintenant c'est bon, le rap, ok, je connais à peu près. Là, je vais me mettre dans un truc. En fait, j'arrive pas parce que tu vois, t'es rattrapé par le rap, mais surtout, ça fait peur tellement c'est infini, en fait, quand tu plonges dans
n'importe quel art. Tu vas t'intéresser au cinéma, tu vas t'intéresser à la littérature. Tu fais, ouais.
Des fois, je reçois des messages de gens qui ont l'air jeunes. Je pense qu'ils me disent, Mehdi, j'aime bien le rap. Est-ce que tu peux me dire 5 albums pour m'y mettre? En fait, j'ai envie de dire, mais. Non, mais franchement, c'est cette question-là, je la reçois très régulièrement.
Ah ouais, c'est fou.
Et en fait, et moi, je trouve ça fou aussi. En fait, je me dis, si t'es intéressé, passionné par quelque chose, juste écoute. Même pas fort. Écoute
ça.
Juste ce que tu veux, en fait, et creuse. Et puis, en fait, en tirant des fils, tu vas comprendre peut-être ce que t'aimes. Et puis, t'as pas besoin de moi pour savoir qu'il faut écouter un moment dans ta vie, si tu veux d'ailleurs. Mais genre, si tu veux écouter les classiques, à un moment, tu vas arriver sur Illmatic, parce qu'on va te dire qu'il faut l'écouter. Et peut-être que ça va pas te plaire, parce que ça. 25 ans et que c'est peut-être très vieux pour toi aujourd'hui, mais parce que tu viens de dire j'ai des lacunes et je trouve ça assez marrant parce que pour moi il y a pas de, ça reste de la musique quoi, et genre il y a pas de passage obligé, en fait. C'est comme si on dit il faut absolument que tu regardes Citizen Kane. C'est bien de le voir si t'es un passionné ou une passionnée, je pense que ça me semble logique d'avoir envie de le voir parce que c'est tellement important dans l'histoire du cinéma, mais en même temps tu peux aussi dire je m'en branle et j'aime le cinéma pour autant, en fait. Enfin, je veux dire, ça c'est tellement subjectif, je trouve, tout ça, que j'aime pas que les gens pensent qu'ils ils sont illégitimes à parler de musique, parce que les gens ont vachement ce truc là et genre moi aujourd'hui on me donne une légitimité alors que...
Cette question de légitimité, j'ai l'impression que à tes débuts, t'avais un peu ce problème-là. T'en parlais un peu en mode, quand je suis arrivée à l'ABCDR du son, moi j'étais pas formée au journalisme et tout.
Ouais, tout à fait, c'est clair.
Et du coup, est-ce que cette question de légitimité, elle est partie? Elle a disparu et...
J'ai pas trop un syndrome de l'imposteur, parce qu'en fait, je me pose pas cette question-là, mais la légitimité, c'est beaucoup plus dur
c'est
à dire.
C'est chiant à dire,
mais
on est d'accord.
En fait, c'est les gens qui te la donnent, je crois. Donc moi, je me suis jamais dit que j'allais parler de rap, que j'avais le droit ou pas le droit. J'avais juste envie de le faire. Effectivement, j'arrivais un peu sur la pointe des pieds parce que, surtout la BCDR, c'était à l'époque où j'étais jeune. Donc il y avait des gens qui étaient plus âgés, donc plus compétents que moi, en tout cas plus érudits que moi sur le rap. Donc je me suis jamais dit que j'étais la bonne personne pour parler de rap. Mais j'avais juste envie de le faire. Enfin, ça brûlait en moi, donc j'avais envie de parler de musique. Et donc moi, c'est plus ça qui m'a poussé à le faire. Je me suis pas trop posé la question de la légitimité. Il y avait tellement une envie de partager, de faire des trucs que du coup je l'ai fait. Mais par contre, c'est vrai, je me suis jamais, et même encore aujourd'hui, pris pour un journaliste parce que j'avais l'impression de ne pas avoir les codes ou la formation, ce qui est le cas. Je suis un passionné qui a la chance de vivre de ça, en fait. C'est encore comme ça que je me définis, même si ça peut paraître bizarre parce qu'effectivement ça fait des années que je me vois vraiment comme ça. Et cette question de légitimité, en fait, je pense que l'ABCDR, ça m'a beaucoup protégé parce que c'est un site qui avait une grosse légitimité pour le coup et une grosse crédibilité. Donc tu pouvais pas écrire des dingueries là-bas. Les quelques fois où j'ai écrit des bêtises ou j'avais des erreurs, ce qui pouvait, on me reprenait. Donc ouais. J'avais pas le droit à l'erreur et je ne voulais vraiment pas décevoir ces gens-là. Donc du coup, comme j'avais un peu cette protection-là, je me disais que si l'ABCDR pense que je peux animer une émission pour l'ABCDR du son, avec ce que ça représentait pour moi de sacré, quoi, en fait c'était bon.
Ouais.
Donc ça m'a vachement protégé et rendu un peu imperméable à une éventuelle critique. Et d'ailleurs, j'ai jamais trouvé de critique là-dessus, j'ai pu en avoir sur d'autres choses, mais jamais sur la légitimité.
Ouais.
On n'a jamais dit que je m'y connaissais pas. On peut dire que j'ai de la merde, ou qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais pas sur... Et ça, je pense vraiment que c'est dû à la BCDR. Ça m'a permis d'avoir un peu une sorte de passeport qui me permettait d'avoir le droit de parler de rap, quoi.
Oui, et puis en vrai, quand on suit un peu ta carrière, t'as totalement participé, en tout cas, à cet élan de... Au moment où le rap a pété, voilà.
Ouais, enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai vécu ça. C'est clair que j'étais dedans.
Non, mais t'as fait partie des acteurs, vois, à un certain niveau. Il y a les rappeurs, évidemment, mais il y a aussi toute la... tous les médias qui ont entouré ça, quoi.
Peut-être, ouais, mais en tout cas, moi, je veux dire, Enfin, j'avais envie d'en être, quoi. J'avais vraiment envie d'en parler, donc c'était plus fort que mon éventuelle peur de pas être légitime.
Ouais, et tout à l'heure, on parlait un peu de rap français, et tu disais, ouais, j'avoue, à la fin de la journée, des fois, j'ai écouté que ça et j'ai envie de changer.
Ouais.
Est-ce que t'écoutes aussi d'autres artistes dans d'autres genres musicaux
Ouais, mais je suis un peu... Pareil, j'ai un peu des marottes, quoi. Genre là, si je vais sur Apple Music... Faisons-le, parce que t'as la playlist des morceaux que t'as plus écouté. Depuis le début de l'année. Et ça n'a aucun sens. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc qui va vous faire plaisir, vous, les gens du son d'après. Le morceau numéro 1, c'est La Vie d'Ichon. Le morceau numéro 2, c'est In Love Again de Lala Ace.
Bien sûr.
Après, il y a deux morceaux d'Amza, voilà. Mais après, c'est Gilberto Gil.
Ah, ok.
En fait. Et ouais, parce qu'en fait, depuis le début de l'année... Non, depuis le documentaire sur Pelé sur Netflix... Je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien le Brésil dans les années 60. Mec, c'est trop bien, je veux vivre là-bas. Alors que c'est une dictature et tout, l'enfer. Mais et du coup.
La musique, ouais, cette musique-là est vraiment trop bien. Ouais.
C'est trop bien.
Elle vaut ça, quoi.
Ouais, et donc, je vais écouter ça, je vais écouter Frank Ocean, je vais écouter beaucoup les trucs avec lesquels j'ai grandi, que ma mère écoutait. Donc Aretha Franklin tout le temps, Billy Paul, Marvel. Mais c'est des énormes classiques, en fait. C'est pas du tout, c'est pas très original. Et dans. Ce qui se fait aujourd'hui dans d'autres genres musicaux, en vrai, je vais écouter. Ah, Billie Eilish, elle a sorti ça. Je vais écouter parce que ça m'intéresse de savoir ce qu'elle fait. Mais même quand je trouve ça bien, j'écoute pas beaucoup.
Ouais, t'y retournes pas.
Ouais, j'écoute pas beaucoup. Même quand vraiment je trouve ça cool. Si, il y a un mec, alors James Blake.
Ouais,
c'est trop bien.
J'ai pas encore écouté son dernier album.
Ouais, c'est. En fait, c'est un peu comme Drake, quoi. C'est du James Blake. Mais, mais lui, il est plus rare que Drake. Donc ça me fait du bien d'avoir ma dose de James Blake. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un mec très très important, même dans un espèce de ce truc hivernal froid de la pop musique des dernières années, ce truc très
l'éloge du spleen en fait.
Enfin, lui c'est vraiment ça. Donc,
mais c'est marrant de voir son évolution parce que moi je sais que pour autant, pour l'avoir vraiment découvert au tout début quoi.
Ouais, moi c'est pas mon cas.
Je trouve ça vraiment dingue de voir là l'évolution et même à quel point il est devenu. C'est pareil, genre le meilleur pote des rappeurs quoi.
Ouais,
Le nombre de fois où il est présent, que ça soit à la prod ou même maintenant
tout à fait, ouais.
En utilisation vocale et tout. Enfin, le featuring avec Travis Scott sur son précédent album, j'avais trouvé ça incroyable quoi.
Enfin, c'est vraiment bien.
Dire, ouais, et puis ça marche quoi. Il y a pas à dire. Ça marche à 200% et ouais, c'est vrai que c'est un artiste génial. Puis,
ouais.
Mais assez transversal.
Complètement, ouais. Complètement. Donc, ouais. Et puis très générationnel aussi. Je trouve que.
C'est vrai.
En fait.
Tu veux dire par le spleen, ouais. Le côté un peu froid, le côté.
Ouais. En fait, c'est mine de rien un truc qui est vachement à la mode. Le spleen.
Parce que les gens vont mal.
Bah ouais, mais en vrai, enfin. PNL, c'est quand même complètement ça. Enfin, il y a Drake, c'est ça. Hein, je veux dire, au début, c'est vraiment ce truc de. Je suis millionnaire, mais putain. Des problèmes quand même. et donc ce regard dans le vide, voilà. Et il y a vraiment un truc comme ça qui est devenu une esthétique, parfois plus qu'une expression d'un véritable mal-être. Enfin, sans remettre en cause la sincérité de tout le monde, mais j'ai l'impression que parfois c'est juste parce qu'il faut le faire.
Ouais.
Pendant longtemps dans le rap, ça a été à la mode d'être triomphal, d'avoir toutes les meufs, toutes les voitures. Et, voilà. Et là, c'est à la mode d'être. L'inverse de ça.
Parce que je pense que c'est des sentiments assez universels en soi. C'est-à-dire que,
oui,
que ça soit
sûr.
Dans un sens, effectivement, le côté victoire, tout où
tout
le monde a besoin à un moment d'écouter un type de son comme ça qui va te donner la patate et,
bien sûr.
Et te faire ça. Et tout comme tu vas avoir ce besoin de spleen. Mais ça m'amène même d'ailleurs à certains morceaux. Je sais que tu cites, bon, désolé, on va reciter certaines de tes marottes, mais je sais que dans les morceaux qui reviennent régulièrement, qui m'ont l'air de toucher, tu cites souvent, bah, par exemple, Akhenaton, sur l'album Quand ça
se disperse, ouais.
Voilà, ou Oxmo, Mine de Cristal,
ouais.
Qui sont là plus le sentiment de nostalgie.
C'est la nostalgie, ouais, ça. C'est plus ça. Mais ça, c'est pour le coup vraiment universel. C'est-à-dire que la nostalgie, genre, c'est vraiment un truc qu'on ressent tous. Et c'est, je trouve, le truc le plus beau et le truc qui brise le plus le cœur en même temps. C'est genre de repenser à des moments heureux et en même temps de se dire qu'ils sont perdus et que
terminé.
Tu ne revivras plus jamais. Et ça, je trouve, c'est dur à accepter. Ce moment de. Et ce morceau de Mine de Cristal d'Oxmo, c'est tellement ça, c'est tellement. Enfin bref, il y a des phrases simples, vraiment c'est un morceau qui est très simple à comprendre. Et, mais justement, il y a des phrases moi qui m'ont chamboulé en mode. Ouais, à un moment, ça y est, c'est fini quoi. Et je sais pas, tu sais, quand tu dis la trentaine, les potes prennent du bide, tu vois. C'est tout simple, mais genre c'est la vraie vie en fait. Genre ça y est, tu sais, le mec que t'as connu il y a 10 ans, il a plus la même gueule, tu le verras plus pareil, tu feras plus les mêmes trucs avec lui ou avec elle. Et voilà, la nostalgie, ouais, ça pour le coup, c'est un sentiment, je trouve, qui est. Moi qui m'habite beaucoup, mais qui habite tout le monde en vrai, je pense. Dès que tu revois des photos, puis maintenant, enfin, ne serait-ce que sur les. Je sais pas, si tu ouvres encore Facebook, ce qui est moins mon cas maintenant, mais t'as toujours des souvenirs d'il y a 3-4 ans, ne serait-ce que ça. Surtout dans notre vie maintenant où on Instagram tout, donc les trucs d'il y a 4 ans
ouais,
sont beaucoup plus vieux.
C'est clair.
Donc tu dis putain, waouh, c'est ouf. Et ça, ouais, parfois c'est ça, ouais. C'est...
Et est-ce que c'est ça, les lyrics et les tournures de phrases et tout, qui sont des trucs qui vont te marquer dans les morceaux que tu kiffes particulièrement?
Ouais, clairement. Moi, en vrai, ce qui m'a intéressé d'abord dans le rap, c'est d'abord les textes plus que la musique en réalité. Même limite, les punchlines que je préfère, c'est pas des punchlines, c'est genre des phrases. Genre. Je sais pas, le truc qui m'a le plus marqué, c'est Oxmo, c'est Kazani, mes fenêtres ouvertes sur le monde entier. Je sais pas, cette phrase-là, qui est sur Mine de Cristal d'ailleurs. Mmh. C'est pas une punchline, mais juste. C'est
une image
qui résonne en moi. Ouais, complètement. Ce qui va rester avec, ouais, en moi, je pense.
Et c'est ce que tu. Quand tu t'écoutes de la musique, t'as ce type d'attente, c'est-à-dire d'aller te faire ressentir peut-être justement soit une émotion.
Non, j'ai pas d'attente, justement. Je pense que. Y a tellement de choses qui m'ont bouleversé dans la musique que maintenant. Si plus rien ne me bouleverse, c'est pas grave.
Ouais.
En fait, je pense que t'es beaucoup moins impressionnable
oui, c'est sûr.
À 35 ans qu'à 20 ans.
Mm.
Pas parce que t'es plus intelligent, parce qu'en fait, t'as forcément écouté. C'est comme le cinéma, c'est plus dur d'être surpris par un film quand on a vu 1000 que quand on a vu 10.
Évidemment.
Ou des mécaniques. J'attends pas que la musique. J'attends rien de précis de la musique ou d'un album, mais. Parce qu'en fait, si je veux ressentir des choses, j'ai mes 20 albums que je connais et que je peux aller piocher, comme dans le cinéma. Si je veux voir une belle histoire d'amitié, je regarde Superbad. Je sais pas, si je veux voir une histoire de trahison, je regarde Impasse. Si je veux voir un film de guerre, je regarde Apocalypse Now. Ça existe. Donc, si demain il y a mieux qu'Apocalypse Now, magnifique. Bon
mais
courage.
Bon courage, ouais.
mais magnifique, quoi. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin même d'être meilleur. Genre, si déjà tu fais un bon film, c'est très bien. Et je pense même que c'est pas très juste d'attendre des choses des artistes, de demander aux artistes de faire quelque chose de précis, etc. Parce qu'en fait, justement, le mieux, c'est qu'ils puissent te surprendre, quoi. Donc,
Et tu parles de cinéma, t'es sensible un peu, vraiment petit détour comme ça, mais vu qu'on parle de musique, t'es sensible au BO? C'est quelque chose que tu vas écouter, ouais. Quelque chose que tu vas même réécouter, enfin.
Bien sûr, ouais, y a des BO qui m'ont énormément marqué. Et il y a des réals aussi qui te font découvrir de la musique, et enfin. Évidemment Scorsese, enfin voilà, bon, c'est classé très bateau de dire ça, mais la musique chez Scorsese, elle est quand même primordiale. Et moi, je sais que quand je vois Casino vers 13-14 ans au collège, tout me chamboule, des lumières au costume de Niro, à Sharon Stone, et à la musique, et c'est indissociable, quoi. Et vraiment, je pense que quand tu regardes Mean Streets, enfin, cette scène où Harvey Keitel rentre dans le bar avec les Rolling Stones, enfin, c'est tellement indissociable. Ça va ensemble, quoi.
Ouais,
ça va ensemble quand, dans Les Nerfs Vifs, De Niro, il appelle Juliette Lewis avec Aretha Franklin qui tourne derrière. C'est sur une scène qui est très très malsaine en plus. Enfin, la musique, quand elle est utilisée comme ça, c'est vraiment, enfin, c'est génial, quoi. Enfin, c'est. Donc, ouais, c'est Réala, Tarantino, bien sûr, bref, toujours les. Mais c'est des gens dont. Enfin, la musique est indissociable de leur cinéma, ouais. Et donc, oui, forcément, ça m'intéresse à fond.
Cool. On passe au son d'après.
Ok. Alors, désolé d'avance. Pour la longueur de cette présentation, parce que ça va être un peu long. Mais j'ai la lourde tâche de clôturer cet épisode. Alors, laissez-moi vous dire, chers auditeurs et auditrices, que déjà, on ne s'est pas fait un cadeau en se donnant comme devoir de ramener un son pour notre invité, parce qu'il faut que je vous mette quand même déjà un peu à la page de mes connaissances rap, qui, si je peux me permettre, sont quand même loin d'être dégueulasses. Mais j'ai tout de même quelques lacunes, surtout ces dernières années. J'ai passé beaucoup de temps, justement, à essayer de rattraper mes connaissances dans 43 genres musicaux différents à la fois. Donc, j'ai un peu de mal à suivre l'actualité rap française, voire internationale. Heureusement, j'ai Clément dans ma vie, ici présent, qui nourrit les trois quarts de mes playlists, et Mehdi, qui a quand même une grande influence, notamment quand tu m'as fait rattraper mes lacunes Zumba, bien sûr. Hein, tu as organisé de manière 100% officielle le tournoi des meilleures Zumba rap françaises, et en 2020, deux ans après sa sortie, je découvre Billet Vert de Maes, qui finit dans mon top track de l'année 2020, bien sûr.
Ah ouais.
Donc, c'est mon premier morceau le plus écouté de 2020.
C'est fou.
Voilà. Et donc, pour le morceau du jour, comme Clément, le choix était difficile. Je me dis, est-ce que je parle de ma Dani Dan à moi, qui est Diams, bien sûr, dont je pourrais parler pendant 8 heures d'affilée. Mais je ne suis pas si prévisible. Donc, j'ai fait comme pour l'épisode avec Marion. Je me suis dit, bon, il faut que je ramène un morceau sur lequel on peut connecter. Et en fait, en préparant l'émission, Clément et moi, je pense qu'on a bouffé globalement toutes les interviews que tu as fait possibles, trouvables sur les internets.
Moi, c'était étalé sur plusieurs années, donc ça, c'était un peu moins, ouais, c'était moins intensif.
Je me suis dit, en fait, en m'attendant les interviews, je te vois parler souvent de l'ABCDR et de à quel point genre, c'était chambé pour toi en fait, d'y arriver et de débarquer là-dedans, les allers-retours, Lille-Paris pour manger avec la team et tout, les premières interviews, tout ça. Et du coup, ça m'a rappelé mes premiers pas à moi dans ce monde-là, entre guillemets. C'est ce moment où toute ta passion, elle trouve un écho auprès d'autres gens qui, comme toi, ont envie de partager un truc et veulent pas juste le partager avec leur groupe de quatre potes, là, qui bassinent avec toujours les mêmes morceaux. Du coup, je vous propose, on en parlait à l'instant, de faire un petit voyage direction la nostalgie. On est en 2013-2014. J'ai 20 ans, je finis une licence pro en gestion de projets culturels et je fais un stage à Paris. Et à côté, depuis quelques mois, j'ai été prise en tant que bénévole dans un webzine qui s'appelle Sous le ton d'oreille. STO pour les
gens. Ah, je me souviens.
C'est vrai ?
Ouais.
Incroyable. Bah voilà, ouais, ouais. Je faisais partie de. Voilà, j'étais bénévole. Et du coup, je découvre l'univers des relations presse. J'ai l'impression vraiment de rentrer dans l'arène, tu vois. Et à cette époque, moi, je suis fan d'un rappeur de Seattle qui s'appelle Sol. Je découvre l'album Variation de 5 majeurs qui. Probablement deviendra un des albums rap que j'ai le plus écouté de ma vie. Et je commence à interviewer des gens. Alors, c'est pas la première fois que j'interviewe des gens parce que je faisais de la radio avant, mais c'est là que je comprends un truc, c'est que j'y connais rien. C'est vraiment un truc de ouf. Je me retrouve à faire une interview de Grumps pour la sortie de son album Vampire, et il me parle de grime, de boom bap, de toute la scène UK que je connais pas. Il nomme les labels des rappeurs, je connais ni les labels ni les rappeurs.
Ça, c'est une encyclopédie. Hein.
Voilà, en fait, je me rends compte qu'en écoutant un album d'IAM et un album de NTM, ça, c'est pas comme ça qu'on connaît son sujet. je connais rien, mais je suis prête, tu vois. Et dans tous ces artistes que j'ai cités, bah, en fait, ça me ramène pile à cette époque-là des débuts, et de mes débuts à moi en tout cas. Il y a un sample qui me ramène toujours, voilà, moi, quand je l'écoute aujourd'hui, qui me ramène au grenier de mon oncle et ma tante, qui m'accueillait à l'époque. C'est un sample qui vient d'un track d'un crew de Détroit, qui s'appelle Clear Soul Forces. Et grâce à Soul Ton Oreille, en 2014-2015, je pense, j'ai la chance de les interviewer parce qu'ils sont de passage à Paris pour leur nouvel album. Et je suis comme une ouf, genre vraiment, je suis en mode, attendez-moi. Moi, je vais interviewer des Américains qui viennent de Détroit, en fait. C'est incroyable. Genre, vraiment, il se passe un truc dans ma tête. Je suis en mode, waouh, je suis rentrée dans la cour des grands, c'est trop bien. Et donc, à cette époque, ils ont sorti un premier album, déjà, que j'ai beaucoup écouté avec beaucoup d'assiduité, qui s'appelle Detroit Revolutions. Et je vous propose qu'on écoute, du coup, le morceau d'intro de cette tape qui s'appelle Welcome to the Show. And you say revolution, but never do shit. Check, katana blade sentences made for the 16 like a cartridge for Sega Genesis. Resistance, visionary with my eyes closed. You vote against the robots, vernaculars out the cosmos. Vehicular verbiage is murder, drive slow. Be a part of manslaughter, the office of pyro. Heavy thought I have hot, it's back draft on my mental. It's fire on my mind, head, Pam Bigelow. Pressure bust pipes and makes diamonds. Welcome to the cage climbing. Those that think that they shine and I'm Dallas Page. Bang, long awaited, we the rulers. Stop him, we drop gems like clumsy jewelers. Diamonds on the floor, let the underground shine. Run the streets of the city, revolutionize minds. Viva la vida, you set the speakers, fight the power till the day a nigga meet the Grim Reaper. These labels are devil, they can't defeat us. Brought my soul to the table, kick your feet up. You see us, believe us. All the stress burning, all the sweet up. Yeah. Run through green like a jungle full of cheetahs. A big shock, Herman Schultz, cold off the infamous. My sentences make bigger rips and throw a monkey wrenches. And no job, no school, I'm foolish and quite primitive. My vision is to sample shit, vivid violinist bitch. Talk about the pyramid shit, we make shit bleed. Bitch, hit the blade in my wrist like Assassin's Creed. Now get up, I'm barely eyed, Timmy, dead job. A pencil push on my god, the art of the head. Now nah, you love it, motherfucker. Now bang that shit so we can see the whole world. Rain, roundhouse kick, roadhouse bitch. Voilà, Clear Soul Forces.
Bah écoute, moi je découvre.
Welcome to the show, c'est vrai, tu connaissais pas?
Ouais, je connaissais pas.
Ah ouais,
ouais, grave.
Incroyable.
Moi je connais le groupe, mais honnêtement, c'est pas du tout un groupe que j'ai écouté ou saigné. Ouais. Donc le morceau, peut-être que je l'écoutais à l'époque, mais franchement, c'est aussi une. Pas découverte du groupe, mais là en tout cas, je le découvre un peu le morceau. Donc,
bravo, bravo.
Quelle victoire, ouais,
non, je suis. c'est, en plus, c'est. Enfin, je laisse parler.
Ouais, vas-y.
Non, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que c'est un peu une scène rap Détroit underground que j'écoutais plus du tout, alors que le rap de Détroit, je l'ai bousillé dans les années 2000, notamment le Détroit, enfin bref, tous les enfants de JD, enfin Fat Cat, bref, c'est une scène, c'est une ville qui est super importante hein, dans l'histoire du rap américain. Et dans les années 2010, j'ai un peu lâché parce que tout se passait à Atlanta, quoi. Donc je suis parti là-bas avec le reste du rap. Donc ouais, non, c'est très cool en plus. Tu sens en plus même le délire boom bap, enfin bref, il y a un truc vraiment très rap et originel, quoi, dans ce morceau-là. Mais c'est vrai que j'écoutais pas du tout ça à cette époque-là. Voilà,
bah, en gros, eux, ils ont percé avec un morceau donc, sur cet album-là qui s'appelle Get No Better, qui a genre 16 millions de vues sur YouTube. Et je pense que c'était les débuts de YouTube où tout le monde était en mode énorme. Ok, on se fait passer les clips et les machins et tout. Et donc c'était vraiment un gros truc, quoi. Et moi, je pense que c'est comme ça que je le découvre. J'avais un pote à l'époque avec qui on s'envoyait tous les morceaux qu'on trouvait et qu'on diguait. Cool, du coup, voilà. En fait, ce projet-là, je pense. Franchement, je saurais même pas te dire, mais je me souviens aller l'écouter sur Bandcamp parce qu'il était dispo nulle part ailleurs, tu vois. Et là, ils l'ont ressorti. Du coup, maintenant, il est dispo sur les plateformes de streaming. Ils l'ont sorti en 2020. Et en fait, à cette époque-là, ils sont pas signés. Et en gros, c'est un crew, ils sont quatre. Il y a Ifav, Ilajid, je sais jamais comment le prononcer, Novelis et LAZ. Du coup, c'est quatre mecs qui zonent globalement à Détroit et tout. Et un jour, ils font une session studio et il y a Royce Da 5'9 qui passe, enfin, tu sais, genre, qui est dans les parages du studio et tout. Et donc, ils vont le voir en mode, est-ce que tu peux écouter ce qu'on fait? Et le gars leur dit, franchement, c'est cool, mais faites un coup, en fait. Allez-y tous ensemble.
Ouais, okay.
Et donc, du coup, ils font ça. Et donc, c'est un peu le début pour eux. Ils sont en mode, waouh, ça va marcher de ouf, c'est bon. On a eu la validation, tu vois, on a un tampon. Et en fait, bon, ils se rendent compte que bah, juste le gars, il leur a donné un conseil, mais après, il faut faire le taf, tu vois. Et donc, quand même, entre 2012 et 2020, là, ils ont sorti 5 albums en tout. Mais c'est exactement ce que tu disais sur Easy tout à l'heure, c'est du boom bap. Ouais, et tu sais qu'à chaque fois qu'ils sortent un projet, ça va être ça. Et en même temps, c'est cool, tu vois, il y a un peu ce côté, t'en parlais tout à l'heure, en fait, c'est des albums qui sont en toi. Et pour moi, cet album-là, Detroit Revolutions, c'est vraiment le, ça me ramène à un endroit.
Ouais, toi, c'est
hyper
même limite
précis,
comme ça que
t'es
arrivé dans le rap en fait. T'as commencé à écouter.
Ouais,
du rap,
c'est ça. Bah, en fait, le truc c'est que moi j'écoutais, tu vois, genre moi j'écoutais Skyrock, tu vois, quand quand j'étais petite, et donc il y avait tous les grands qui disaient t'écoutes Booba, mais en fait il fallait écouter Lunatic avant.
Ouais,
tous les gens qui disent Rof, en fait c'était la Mafia Cafri, et moi j'étais en mode bah moi j'aimais bien Pitbull et et voilà quoi.
Ouais.
Et du coup il y avait ce côté où ouais, en fait là je commençais à découvrir des trucs autres qui me sortait de juste les playlists Skyrock, qui est quand même assez limité au bout d'un moment, quoi. C'était vraiment chambé pour moi. Et en fait, là, en regardant un peu les trucs, enfin, genre, j'ai regardé les lyrics tout à l'heure, j'étais vraiment en mode, j'ai aucune ref. C'est-à-dire, genre, ça parle de MMA, ça parle de jeux vidéo auxquels j'ai jamais joué et tout, mais je sais pas, genre, ça n'empêche que, tu vois, genre, il y a la puissance du souvenir qui est pas du tout liée à quel point je comprenais les paroles, à quel point, genre, je peux relate à leur vie, parce qu'en vérité, leur vie à Détroit, dans les quartiers de Détroit, si tu veux, vraiment, clairement pas la mienne, tu vois. Il y a un truc comme ça où je voulais un peu qu'on parle de la puissance du souvenir et de à quel point, genre, en fait, c'est un truc qui est aussi générationnel, on t'en parlait un peu tout à l'heure, mais justement, ce côté, bah voilà, tu vois, genre, les anciens qui disent ok, la Mafia Cafri c'était chambé, Lunatic c'était chambé, et toi t'arrives et tu dis bah Westside c'est bien, non?
Ouais.
et du coup en fait, maintenant que je commence à grandir et que je comprends que maintenant je fais partie des adultes, ouais. Et ben il y a d'autres adultes qui sont maintenant journalistes et qui disent franchement Westside chambé, et je suis en mode ah bon,
on
ouais,
a bien sûr.
Ouais, ouais, c'est bien.
Bien sûr. Mais même Westside pour certains, ça y est, c'est old school en fait. Alors que
bah, en tout cas lui-même quand dans ses concerts, je crois que
moi je me souviens, c'est enfin, moi je pense que ce que tu dis c'est trop important, parce que c'est important aussi pour les vieux qui comprennent qu'ils ont pas raison en fait, et qu'on a pas raison dans la musique. Parce que dans la musique on a pas raison, ça, tu vois, enfin, j'ai pas plus raison que toi parce que j'écoutais plus de rap que toi. Si tu trouves que PNL c'est mieux que le Wu-Tang, t'as le droit. Enfin, ouais. C'est de la musique. C'est même fou qu'on ait ces discussions là, que les gens veulent absolument te prouver qu'ils ont raison. C'est cool. Après, je dis ça, mais moi j'adore avoir des discussions passionnées en mode lui il est meilleur que lui. Genre,
oui,
c'est ma vie,
sûr.
Évidemment.
Parce que voilà, parce qu'on est des connards du rap. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, c'est vachement, effectivement, tout ça est vachement lié à des moments, à des souvenirs, des périodes de ta vie et à un âge aussi, je pense. Mais bon, je me souviens, moi, une fois je parle avec un jeune qui devait avoir 20 ans, j'en avais 30. Et je lui dis, t'écoutes encore Booba et tout? Il fait, ouais, j'adore Booba, c'est mon rappeur préféré, je pense. Je fais, ah, ok, lourd. Et t'as écouté Temps Mort du coup à l'époque? Ah non, le rap old school, j'aime pas. Et c'est marrant parce que moi, Temps Mort, il est sorti en 2002. Pour moi, c'est pas du tout old school. C'est pas ça le rap old school pour moi. Pour moi, le rap old school, c'est Run DMC, quoi. C'est Public Enemy. Et j'ai du mal à écouter. En vrai, j'ai du mal à écouter. Alors que quand tu parles avec des gens qui ont écouté Public Enemy quand c'est sorti, mais mec, t'es un mal. C'est classique, c'est ultime. Donc, alors que, genre, moi, je suis censé avoir tout écouté et tout, ben non, il y a des trucs qui sont dans l'histoire du rap trop datés pour moi, que j'ai écouté par curiosité, mais que j'arrive pas à aimer en réalité.
Oui, tu vas pas réécouter pour te
j'arrive
faire plaisir.
J'aimais bien, d'ailleurs, je crois, dans la sauce, il y avait.
Oui! On avait fait,
il y avait une chronique avec, j'ai oublié son prénom, mais qui
travaillait
avec
Hugo,
toi.
Avec Hugo, qui écoutait des albums,
des vieux albums
qu'il avait jamais écouté, qui était même sorti avant sa naissance.
Ouais, c'est ça.
Et,
c'était génial. Moi, je trouvais ça génial.
Ouais, mais c'est un truc que j'avais volé. Honnêtement, j'avais dû citer le média à l'époque qu'on l'avait fait. C'est un média américain qui, à un moment, avait fait chroniquer, je sais plus si c'est Pitchfork the Fighter ou un autre, qui avait fait chroniquer des classiques par des stagiaires à eux qu'ils n'avaient jamais écoutés. Et c'est génial, et aussi parce que c'est, tu comprends que tout ça est très relatif et générationnel, et c'est important de jamais le perdre de vue, je pense. Et surtout que, enfin, pour moi, dans l'art, on n'a pas raison, on n'a pas tort. Sauf quand, enfin bref, on peut dire qu'une œuvre est offensante si elle est ouvertement, mais je veux dire, elle est, enfin, si on parle juste de est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, enfin, pour moi, il n'y a pas de règle, quoi. Et... tout, enfin, je sais pas, moi j'ai dans mon entourage des gens qui sont pas des passionnés de musique, qui en écoutent de temps en temps, et parfois t'es là et tu leur dis, mais mec ou meuf, parce que ma femme en l'occurrence c'est aussi son cas, hein. Ça c'est pas génial, ça, franchement, c'est pas génial. Elle ou des amis à moi qui écoutent de la pop ou des choses, voilà, qui écoutent ce qui leur arrive dans les oreilles en fait, qui sont pas comme nous à les diguer. Elle dit, mais non, en fait, non, je suis désolé, c'est pas génial, non. Parce que toi, t'es là et tu te dis, mais ça, c'est pas normal, ça, tout le monde doit aimer ça,
la
normalement.
Frustration,
et quand tu vois ça, qu'en fait, parmi les oreilles des vrais auditeurs, en réalité, ben non, c'est normal que ça marche pas. Parce que eux, ça leur parle pas.
Ouais.
Par contre, quand ils vont écouter, je sais pas, moi, prenons un exemple, je sais pas, je parle d'elle, mais Angèle, l'album, il est tubesque de A à Z,
sûr.
En fait, dans la prod.
Ouais,
et ça, ce que je me souviens, ça sort à peu près au même moment que Deux Frères de PNL. Et Deux Frères, bon, ça cartonne parce que c'est PNL. Et ODD, les gens de mon entourage, ils comprenaient parce qu'il y a un truc dans le sample, etc. Mais après, ils me disaient, ouais, mais c'est dommage parce que, bon, les autres morceaux, c'est pas pareil. Et alors que Angèle, en vrai, tous les morceaux sont non pas pareils, mais sont pensés de la même manière. Ouais. Ils sont super bien produits. Enfin, franchement, c'est trop bien produit. Bien, c'est trop efficace, c'est trop bien écrit dans ce qu'ils veulent faire. Et donc ça, c'est la pop, c'est pop quoi, c'est ça être pop en fait. Bref, mais du coup, le souvenir c'est trop important et jamais perdre de vue que tout ça est subjectif et que justement quand les artistes arrivent à mettre plusieurs, enfin des milliers, voire des millions de gens d'accord, c'est sûrement qu'ils ont un truc en fait. Ouais. Et que parfois nous on joue au puriste en mode, non en fait, c'est pas toi qui décide de toute façon. Tu peux dire que Maître Gim fait de la merde si tu veux, mais en attendant,
c'est pas toi qui es milliardaire quoi.
Et puis quand tu fais un morceau comme Bella qui touche vraiment un pays entier, c'est que tu touches à quelque chose en fait, c'est pas juste du formatage, c'est pas vrai, il y a de l'émotion là-dedans en fait, qui nous peut-être nous passe à travers, mais c'est pas aussi simple que ça. Et si c'était si simple que ça de faire des tubes, ben tout le monde en ferait. C'est Soprano un jour qui m'avait dit ça en interview, qui m'avait dit, c'est mes premières interviews, ça m'avait marqué, il m'avait dit, mais si il y avait une recette pour faire des tubes, tout le monde en ferait. Et il dit, moi quand je sors un album, je sais pas, j'essaye d'en faire parce que c'est mon rôle maintenant, mais je sais pas si je vais y arriver quoi. Et donc voilà, donc il y a pas de, c'est pas du tout la question du départ. Hein.
Ouais, écoute,
c'est
très
bien,
mais
c'est trop bien. Parce que même, moi, je sais que je peux avoir ça. Maintenant, j'en suis un peu revenu. Mais ce côté où il y a un moment, tu sais, les trucs qui marchent vraiment, qui marchent trop. Tu trouves ça suspicieux.
Parce que t'as l'impression que. Moi, je pensais ça avant. Je pensais, ouais, mais c'est parce que c'est formaté à la radio. Ouais, c'est ça. Bah, je pense pas, moi. Je pense qu'il y a des trucs qui ont été formatés à la radio et qui n'ont pas marché et qui ont été déprogrammés très vite. Je dis pas que tous les tubes pop de l'histoire de l'humanité, c'est des vrais tubes, mais enfin, je pense que souvent, quand ça marche de ouf, il y a une raison et ça. Tu vois, c'est comme. Ça n'a rien à voir, je passe du coq à l'âne. Comme dans une partouze à la ferme, Fuzzati, pour ceux qui se souviennent. J'adore cette phase horrible. Et là, au moment où on parle, il y a la saison 2 de Validé qui sort. Et qui. Critiqué ou apprécié, bref. Mais moi, je me disais, Franck Gastambide, les gens qui aiment le cinéma, ils vont pas dire que c'est un grand réalisateur. Mais, Kaira, Pattaya, Taxi 5, Validé, c'est que des cartons. Et ça fait. Donc, en fait, je me dis, je sais pas, genre, moi, j'ai l'impression qu'il a trouvé un truc. Comment être populaire en France quand tu fais du cinéma? Et en vrai, c'est fort. Enfin, c'est fort.
On
a le droit de ne pas chercher ça.
Tu peux pas renier ça, quoi.
Ouais, je trouve qu'il y a quand même un truc, ça veut dire qu'il a. Je sais pas, il a mis le doigt sur un truc. Et moi, je suis assez intéressé par ça, par comment t'arrives à devenir populaire, en fait. C'est ouf. Enfin, je sais pas, ça me fascine un peu.
Bon, voilà, je voulais parler de ça, de souvenirs et tout, parce que ça me. Je sais pas, en fait, vraiment, en t'entendant en parler en interview de la BCDR et tout, j'étais en mode, je vois exactement moment de la vie. Ah oui, bah, j'ai des recos souvenirs pour prolonger l'écoute. Du coup, cet album de Clearsoul Forces qui s'appelle donc Detroit Revolutions, un EP de Sol, donc qui était un rappeur de Seattle, que j'ai pas écouté depuis, mais qui avait sorti un EP qui s'appelait Yours Truly, et l'album de 5 majeurs, Variation. Voilà, c'est tout pour moi.
Magnifique. Trop bien. Ouais. Et je crois qu'on arrive tranquillement à la fin de l'émission. On a bien discuté.
Moi, ouais, c'était bien.
Très bien.
Moi, je suis ravi.
Ouais, grave. C'était hyper cool. Mais avant de se quitter, quand même, est-ce que tu peux nous dire du coup où est-ce qu'on te retrouve actuellement? En tout cas, si les gens ont envie de te suivre, j'imagine
bien
que
sûr.
Ils ont bu tes paroles là, du coup.
Sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, parce qu'il y a les interviews du code en vidéo là-bas. Et il y a un autre programme que je vais lancer, mais sans fréquence, que j'ai lancé, qui s'appelle le Mousecast, où je vais interviewer des gens pour parler d'autre chose que de rap, là-bas.
Qui est cool.
Sur Apple Music, donc j'ai dit le code en vidéo et le code en audio, parce que tous les vendredis, il y a des émissions qui soit parlent de l'actualité, soit reviennent sur des thèmes ou des artistes. Rap-jeu, sur YouTube. Et puis, il y aura peut-être d'autres formats qui vont arriver, notamment sur Apple Music et YouTube, vers 2022, je pense.
On mettra tout dans les notes du podcast.
Évidemment. Justement, c'est la partie un peu blabla de fin.
Où est-ce que vous retrouvez Le Son d'Après? Sur Instagram et sur Twitter, @leSonDAprès.
Tout à fait.
Aussi, les notes du podcast. Il y aura l'intégralité de tous les artistes dont on a parlé, notés correctement, écrits correctement, parce qu'on sait qu'on a fait 12 000 références et que vous êtes en mode, attendez, comment ça s'écrit tel truc? C'est dans les notes du podcast. Est-ce qu'il y a un autre truc? Il y a la playlist.
La playlist, donc évidemment, les 4 morceaux qu'on aura entendus aujourd'hui vont rejoindre notre playlist du jour. Donc on est ravis d'accueillir tes 2 morceaux qui viennent intégrer la playlist qui est mise à jour tous les lundis en même temps que le nouvel épisode. Et puis évidemment, si ça vous a plu, c'est-à-dire revenez, en tout cas les gens qui découvrent, vraiment revenez, on s'amuse bien ici. Et puis si ça vous a plu aussi et que vous avez envie de donner de la force au podcast, évidemment, un petit commentaire sur Apple Music, 5 étoiles, et puis un mot sympa à ton voisin, aux gens. On sait que le bouche à oreille, c'est quand même ce qui fait le plus son effet sur les podcasts.
Ouais. Dernière question.
On a quand même une dernière question pour toi.
Oui.
C'est quoi le son d'après que tu vas écouter là en sortant de l'émission?
Je t'ai dit.
C'est ça?
Un amour suprême. Ouais, je pense. Hein, tu m'as donné envie de.
Ça me fait plaisir.
De relancer ça. Donc je vais marcher, je vais rentrer chez moi. Là, j'ai une petite demi-heure à pied. Je vais m'écouter ça et je vais passer un bon moment.
Trop bien.
Voilà.
Et ben merci beaucoup, Mehdi.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci beaucoup.
Clem, on se dit quoi?
On se dit quoi? Bah, à la semaine prochaine!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.